puisque nous sommes encore en début d'année 2018. Bonne année créative et territoriale en même temps, puisque nous avons tout un programme, vous l'avez. Si vous ne l'aviez pas, n'hésitez pas à nous le demander. Je voulais tout d'abord excuser Didier Moreau, le directeur de l'Espace Manès France, qui a dû aller à Bordeaux ce matin, puisque, comme vous le savez, nous sommes dans la Nouvelle-Aquitaine, et effectivement, cela suscite de nombreux déplacements vers la métropole bordelaise. Donc, il vous prie de l'excuser. Donc, c'est de la première rencontre de cette année 2018, consacrée toujours, vous savez comment on fonctionne, on prend un thème et on le passe un peu au tamis de créativité et territoire. Donc, vous avez tout le programme de 2018 qui s'annonce. Et nous avons nos 7e journées d'automne qui auront lieu fin octobre pour cette année 2018, plus des rencontres dans les entreprises, des rencontres dans les territoires, dans les micro-territoires. En perspective à Chauvigny en avril, mais il y en aura d'autres, une à Loudun dans un mois, je crois. Voilà. Donc on va passer tout de suite au sujet. Je vais d'abord demander à Madame Lou Boutin de nous rejoindre, qui interviendra pour lancer un peu cette table ronde. Je la remercie d'autant plus d'être présente parmi nous que je sais qu'elle était grippée la semaine dernière, donc merci à elle. Tout comme Céline, ma collègue, n'est pas là aujourd'hui, évidemment, puisqu'elle est aussi malade. Voilà. C'est la période un peu hivernale. Donc, Madame Lou Boutin est adjointe au directeur responsable de la politique scientifique du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain, qui se situe à Saint-Germain-en-Laye, et qui interviendra donc sur un thème qui nous intéresse beaucoup par rapport au territoire. C'est musée national et musée territoriaux d'archéologie, construire des identités, des complémentarités. Madame Lou Boutin, à vous, vous avez la parole.
Ça marche ? Bon, bonjour tout le monde. Donc effectivement, comme vous disiez, archéologie et territoire sont deux termes qui marchent généralement bien ensemble, pour la bonne raison que, un petit peu comme les monuments, hein, les vestiges archéologiques sont ancrés dans le sol, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Donc ce lien entre la terre dans laquelle ils sont et le territoire est tout à fait étroit, contrairement à ce qui est effectivement collection de beaux-arts, voire même d'histoire naturelle. Je ne vous parlerai pas d'archéologie dans toutes ses composantes, hein, puisqu'on serait là au moins jusqu'à demain. Je vous parlerai simplement des musées d'archéologie, à la fois dans leur aspect territorial et dans les problématiques nationales. Les musées d'archéologie en France sont difficiles à compter, à évaluer numériquement, dans la mesure où vous avez sans doute tous constaté que n'importe quelle petite ville, petit village, pour peu qu'il ait une salle d'exposition, qu'elle soit musée au sens institutionnel du terme ou pas, a généralement une petite vitrine d'archéologie. On peut quand même considérer qu'il y a on va dire entre 100, 120 et 140 musées en France qui sont vraiment des musées dédiés à l'archéologie, exclusivement ou essentiellement, avec des collections un petit peu importantes numériquement. Je vous présenterai d'abord quelques exemples. Je vais surtout en fait vous montrer des images et des exemples de musées de façon à pouvoir susciter autant les questionnements que les interrogations. Et je vais commencer par vous montrer quelques exemples de musées qui sont vraiment tout à fait naturellement liés à l'identité d'un territoire. Je prendrai des exemples. Je prendrai des exemples qui vous sont relativement familiers ou même très familiers, j'espère. Hein. Vous avez ici le musée de Bougon que l'on voit ici et qui est lié très étroitement à la nécropole mégalithique avec laquelle il forme un tout. Donc là, on a vraiment le type même de musée qui est sur un territoire qu'il met en valeur, un territoire qui a au moins 6000 ans par rapport à nos jours. Vous avez un autre exemple que vous connaissez, j'espère, hein, qui est celui du musée du Grand Précigny, qui n'est pas tout à fait identique, puisque le Grand Précigny, ce n'est pas un site, hein, c'est une multitude de sites qui sont à peu près invisibles dans le paysage, contrairement à la nécropole de Bougon, mais où vous avez là un musée qui est, je dirais, le marqueur de l'identité majeure, hein, de ce territoire autour du village du Grand Précigny, même de façon plus large entre Abilly et La Roche-Posay. Donc des territoires qui peuvent être très visibles et dans lesquels le musée est un élément parmi d'autres, et des territoires finalement qui ont besoin, hein, justement d'un musée pour pouvoir affirmer une identité qui est tout aussi réelle, mais beaucoup moins visible. Un exemple complètement différent qui est celui de Marseille. Il fut un temps à Marseille, il y avait un seul musée qui était le musée qui était implanté dans la vieille Charité, où vous aviez toute l'archéologie, hein, l'archéologie locale comme l'archéologie égyptienne, proche-orientale, gréco-romaine. Et puis, depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, cette archéologie a été scindée en deux de façon à répondre à une double identité de la ville de Marseille, qui est à la fois un port méditerranéen de première importance. Donc on a mis en exergue ce côté méditerranéen de la ville de Marseille. C'est un petit peu, si vous voulez, le miroir du Mucem, avec une antériorité marquée, une cohérence à mon sens beaucoup plus grande, mais ça c'est une autre question. Et donc une identité qui est une identité d'ouverture, hein, de la ville de Marseille. Et d'un autre côté, on a construit un musée d'histoire locale, d'histoire de la ville de Marseille, qui est en prise à la fois avec le territoire dont sont issus les vestiges, puisque vous avez ici le port de Marseille, le port grec de Marseille, au-dessus duquel est construit le musée. Et ce musée de surcroît est en fait intrinsèquement lié à un supermarché, hein, puisqu'en fait l'accès normal du musée se fait par le supermarché de la grande bourse de Marseille. Donc ce lien que veut faire le musée entre un passé et un présent, et qui est retranscrit à travers l'archéologie des origines, jusque, ça ne va pas vraiment jusqu'au monde contemporain, hein, l'archéologie qui est exprimée dans le musée de Marseille, elle s'arrête à peu près à la fin du 19e, au mieux au milieu du 20e, et on sait à quel point justement cette archéologie des temps modernes est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans un musée. Et puis vous avez des situations plus difficile, je dirais. Vous avez ici le futur musée de Nîmes qui va ouvrir dans quelques mois, au printemps, si j'ai bonne connaissance, hein, ou que vous voyez ici, en image virtuelle, bien entendu, à côté des arènes de Nîmes. Vous retrouvez sur le plan les arènes et le musée qui est ici, et une vue intérieure. Là, on est effectivement dans un musée dit de la romanité qui se situe dans une des villes romaines les plus importantes du Midi. Donc là, il y a une volonté et une réussite, je pense, hein, de lier le musée à son territoire, qui est cette fois-ci un territoire urbain, mais une perméabilité entre l'institution muséale et la ville qui en est à la fois le porteur et le lieu d'accueil. En revanche, vous avez à peu près à 120-130 km le futur musée de la romanité aussi à Narbonne. Et comme vous l'indiquent les titres de ces deux établissements, on est là effectivement dans un vrai problème d'identité de territoire, puisqu'on se retrouve, et ce n'est pas pour rien, avec deux musées qui ont du mal à dégager chacun un nom propre, donc qui affirment malgré eux, je dirais, leur presque trop grande parenté, et qui va, à mon avis, poser un vrai souci, hein, puisque si, en étudiant de façon un peu précise les collections de ces musées, on se rend compte que les points forts ne sont pas les mêmes. Hein, à Narbonne, vous avez une très belle collection de peintures. À Nîmes, vous avez une magnifique collection de mosaïques. Donc, des individualités existent, mais qui sont, à mon sens, un peu noyées, hein, dans, justement, une proximité qui est liée non pas un titre, le titre ne fait que l'exprimer, mais qui est lié aussi à un choix qui est très propre au Midi d'ailleurs, qui est de faire commencer l'archéologie à la période quasiment classique. Que ce soit à Nîmes, que ce soit à Narbonne, vous avez une évocation extrêmement minimaliste des temps pré-romains. Et ça, c'est une vraie caractéristique de l'ensemble des musées du Midi, où finalement l'histoire d'un territoire commence avec la civilisation grecque ou romaine. J'attire votre attention sur le nom du musée, pardon, le musée régional. Le musée de Narbonne est le seul musée en France qui soit porté par un conseil régional. Et de façon étonnante, la problématique n'est pas du tout posée en termes de territoire qui serait celui de la tutelle. C'est-à-dire que la problématique du musée de Narbonne n'est pas celle du territoire d'Occitanie, n'est pas du tout en lien avec le territoire pris en charge par sa tutelle. Le projet du musée est exactement le même qu'un musée municipal ou départemental ou de collectivité. Donc on a une disjonction complète entre la tutelle, l'emprise de la tutelle et l'objectif du musée. Je vais vous montrer deux cas de musées qui, là, posent un problème différent, c'est-à-dire non pas de l'identité d'un territoire à travers, reflété et défendu par un établissement muséal, mais au contraire, comment au sein d'un territoire, des établissements a priori assez similaires peuvent se débrouiller pour affirmer leur propre identité. On va voir le cas d'une part de Vannes et de Carnac, et on verra dans un autre cas le cas de deux musées d'Île-de-France. Vannes-Carnac, deux musées de Morbihan, deux musées d'archéologie, deux musées assez proches. Comment est-ce que ces établissements peuvent définir une véritable identité qui leur soit propre et qui permette de donner une image, une histoire du territoire qui soit non pas redondante, mais complémentaire? C'est un travail qui a été mené sur de très longues années, puisque ça, c'est un des problèmes que rencontrent les musées, mais pas seulement les musées, c'est-à-dire le fait que les tutelles sont essentiellement des tutelles politiques et que leur point d'ancrage, leur focalisation, ce sont quand même leurs électeurs. Donc ça, c'est un problème dont on parlera pour finir, mais qui est quand même un réel problème. Comment on fait Carnac et Vannes pour être à la fois deux musées qui ont leur propre existence, qui sont le reflet d'un territoire et qui ne sont pas redondants? Eh bien, ils ont mis plusieurs années à définir des politiques, mais sur le long terme, c'est-à-dire des politiques de collection, d'enrichissement de collection et d'affirmation de parcours muséographique. Carnac, comme vous le voyez sur l'image, est un musée qui s'inscrit dans un territoire où les monuments archéologiques, les monuments mégalithiques sont pléthores et extrêmement visibles. Donc Carnac a orienté sa politique d'acquisition et de présentation de collections sur ces périodes anciennes en focalisant sur les périodes néolithiques, sur les périodes du mégalithisme. À l'inverse, Vannes est un musée implanté en pleine ville. Une ville qui est implantée sur une ville romaine qui était une ville extrêmement importante, une capitale régionale. Et Vannes, du coup, va réorienter son identité sur ces périodes historiques, en commençant dès l'âge du fer et en allant jusqu'à une archéologie moderne, une archéologie urbaine. Donc, un travail qui a été nécessaire pour arriver à mieux ancrer que ce que s'était fait au fil du temps, les établissements dans le cadre urbain ou dans le cadre territorial dans lequel ils sont implantés. Et ça, c'est une nécessité pour à la fois l'identification des établissements et je dirais aussi pour leur pérennité. On le voit à travers un autre exemple différent qui sont les musées du Val d'Oise, hein, le musée archéologique du Val d'Oise et le musée Archéa à Louvre, qui sont deux musées situés dans le même département, qui n'ont pas la même tutelle, mais qui ont été confrontés à une véritable remise en cause de la part des différentes collectivités en disant « Mais est-ce que deux musées archéologiques dans un département, c'est pas un de trop ?» En quoi ces deux musées ont-ils une vraie nécessité pour être à la fois différents l'un de l'autre et à la fois des vraies expressions particulières de réalité territoriale. C'est dans le cadre d'une exposition que ces deux musées ont décidé de montrer à la fois leur identité propre et leur complémentarité, et donc le caractère indispensable et de l'un et de l'autre, et une fusion qui serait une perte finalement de richesse informative et de richesse documentaire. Le musée archéologique du Val d'Oise, qui est situé près d'un site gallo-romain, le site de Génaville, qui est un site de sanctuaire, et le musée Archéa, qui lui est situé et a permis l'exploration et le sauvetage d'une villa gallo-romaine. Donc ils se sont tous les deux appuyés sur une donnée du territoire au plus proche de leurs établissements, et en même temps, ils ont construit d'une part leur identité propre, dans le cadre d'une exposition. Comme vous voyez, entre cette muséographie et celle-ci, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une répétition de la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas organisé une exposition itinérante, à laquelle vous pouvez très bien répondre, mais plutôt que de la présenter dans deux lieux, pourquoi est-ce qu'on ne la présente pas dans un seul ? Dans le but, justement, c'était de faire deux expositions articulées sur les Romains, le mode de vie à la romaine, le mode de construction à la romaine, c'est-à-dire deux expositions complémentaires associées à des richesses patrimoniales proches des musées et non pas un doublon d'un musée dans l'autre. Et je vous montre aussi cette image. Vous avez ici ce qu'on appelle une chaudière, qui est un chauffe-eau, qui est en plomb, qui est quelque chose d'exceptionnel, dont on ne connaît pas d'exemple en France. On en connaît deux ou trois dans le monde romain, qui a été sauvé complètement par hasard, qui a été trouvé à côté du musée Archéa à Louvre, mais qui va rejoindre le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'au cours effectivement des discussions qui ont eu lieu entre les musées et entre le service régional de l'archéologie et les musées, il est apparu que ce type de vestige tout à fait exceptionnel, et il était plus important de l'inscrire dans un établissement qui avait une vocation, je dirais, plus de présenter des civilisations qu'un territoire, alors que c'est une sorte d'apax, de quelque chose de tout à fait isolé sur le territoire de Louvre et du Val d'Oise. Et ce type d'affectation de matériel archéologique, si vous voulez, c'est le cas, alors que c'est une pièce tout à fait exceptionnelle, c'est le cas même de choses qui n'a posé aucun souci de discussion. Je vous parlais la difficulté du poids de ce que qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire la question qu'il faut toujours se poser, c'est de qui dépend le musée, quelle est la tutelle du musée. Vous avez ici un exemple très frappant du poids que ça peut représenter. Vous avez ici la ville de Vienne, en Isère, qui est une ville gallo-romaine particulièrement exceptionnelle, avec des monuments extrêmement bien conservés dans la ville. Et vous avez ici le musée de Saint-Romain-en-Galles, qui est lui dans le département du Rhône, qui dépend du département. Les musées et les monuments de Vienne dépendent de la ville de Vienne. Saint-Romain-en-Galles, c'est un quartier de la ville ancienne de Vienne. Et ce qu'on constate aujourd'hui, comme depuis des décennies, c'est la difficulté de mettre sur pied une politique archéologique, une politique territoriale commune entre deux territoires qui ne dépendent pas de la même tutelle. Donc, qui n'ont pas ni les mêmes fonctionnements, d'un côté vous avez un département, de l'autre côté vous avez une municipalité, qui n'ont pas forcément les mêmes politiques culturelles, hein, les mêmes, chacun sait, et c'est normal que les collectivités mettent en avant certains pans, hein, que ce soit dans la culture ou dans d'autres domaines. Là, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait les mêmes éléments qui sont mis en avant. Et je dirais, pour l'avoir vécu au Grand Précigny, ce sur quoi se focalisent aussi les élus, ce sont quand même leurs électeurs. Hein. Et si je prends le cas du musée du Grand Précigny, qui est en frontière de département, en frontière d'Indre-et-Loire, dont le territoire archéologique est beaucoup plus axé sur la Vienne, sur la Charente, sur toute cette région du Poitou-Charente, c'est Et il a été impossible de justement construire un territoire culturel fondé sur l'archéologie, dans la mesure où l'intérêt des collectivités, et en l'occurrence du département de l'Indre-et-Loire, était focalisé plutôt sur l'Indre-et-Loire, c'est-à-dire sur des régions plus septentrionale, mais qui en revanche, en termes d'histoire de territoire, était très lâchement en interaction avec le territoire du Grand Précigny. Je vais passer là, sinon je vais y passer trop de temps. Pour terminer, je vous ai parlé de musées qui sont, d'une façon ou d'une autre, de façon évidente ou de façon plus volontariste à construire, très liés à des territoires. Vous allez me dire, mais alors, un ou des musées nationaux, quelle est leur place justement dans cette notion de territoire et de territoire archéologique. Déjà, comme vous le savez, il existe deux musées nationaux d'archéologie, ce qui, a priori, n'est pas forcément évident, hein, puisque qui dit national dit jusqu'à présent qu'il y a un territoire national, et chronologiquement, les deux musées ont au moins, pour leurs périodes les plus anciennes, le même recouvrement, puisque si le musée des Aisies est exclusivement ou quasiment consacré au paléolithique, les collections paléolithiques du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain sont aussi un élément très fort de ce musée. Donc déjà, quelque chose que je pense, ce qui est aujourd'hui le grand chantier problématique pour les musées, pas seulement pour les musées, qu'est l'action territoriale, l'action publique 2022, effectivement, va poser question. Maintenant, par rapport au territoire, par rapport au musée de territoire, quelle est l'articulation, quelle est la complémentarité à laquelle on peut penser pour ces musées nationaux et ces musées territoriaux? Elle est assez évidente, quoique implicite, pour tous les responsables de musées, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, alors qu'elle est beaucoup moins évidente pour aussi bien les élus que les administrations, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient territoriales. Je pense que les musées en région sont vraiment des musées de territoire, c'est-à-dire que c'est des musées dans lesquels, vis-à-vis desquels aussi bien les habitants que les touristes, ce sont des lieux où vous êtes au milieu de ce qu'a été l'histoire de ces territoires. Hein, c'est-à-dire vous avez aussi bien les paysages, vous avez généralement l'histoire assez longue de ces territoires. Donc vous avez une imprégnation finalement de ces temps anciens, hein, dans un paysage et dans une histoire plus longue des territoires. En revanche, je pense que le but d'un musée ou de musées nationaux, c'est plus d'être un musée d'anthropologie culturelle, hein, c'est-à-dire effectivement d'être à la fois une introduction, un complément et une conclusion à ces musées de territoire qui permettent d'inscrire des histoires particulières dans des grandes problématiques anthropologiques. Hein. Qu'est-ce que c'est que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs, hein. Qu'est-ce que c'est que la notion d'échange, la notion de migration, hein. Qu'est-ce que c'est que le passage à l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'invention et la mixité des populations, c'est-à-dire toutes ces questions qui vont être illustrées par des vestiges archéologiques qui vont être un complément, hein, et une autre façon de voir l'histoire sur les territoires. Hein. Je crois que dire l'archéologie doit être présentée uniquement au plus proche de ces lieux de découverte, je ne pense pas que mettre au pied de chaque clocher ou de chaque mairie tout ce qui a été trouvé dans un rayon de 50 ou 100 km permette à personne, hein, d'avoir une idée, hein, à la fois de l'identité de son territoire, hein, et de la façon dont ce territoire s'inscrit dans une histoire anthropologique qui le dépasse et qui, je dirais, n'a même pas de véritable frontière géographique. Et ça, c'est quelque chose que partage l'ensemble des responsables de collections archéologiques et qui n'est pas facile à faire comprendre, ni forcément au public, ni surtout aux tutelles administratives et politiques. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai déjà bien parlé.
Non, c'est parfait, merci beaucoup.
Merci.
Merci Madame Louboutin. Est-ce qu'il y a des questions directement? Sinon, de toute façon, vous restez à l'estrade, on va demander un témoignage assez local, justement, et votre regard sur ce témoignage local peut être intéressant. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette intervention? Vous vous présentez en même temps, puisqu'on enregistre, ce qui permet de...
Donc Anne-Sophie Martineau, archéo-anthropologue. Moi, ma question, c'est sur la constitution de ces différentes collections en fonction des différents types de musées. Sur quel type de vestiges on est? Est-ce qu'on est sur des découvertes fortuites, des résultats de fouilles anciennes, de fouilles récentes? Dans quelle mesure qu'est-ce qui va où?
Voilà. Alors, la grande question, c'est que les choses vont quand elles vont quelque part, d'autres que dans des dépôts, hein, autrement appelés centres de conservation et d'études, hein, qui sont, à mon avis, jamais que des dépôts archéologiques 4 étoiles, hein, mais c'est, d'un point de vue fonction, c'est exactement la même chose. Ce sont des lieux de conservation et d'accès pour études au matériel. Ce qui va dans les établissements qui ont pour vocation de présenter au public, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire que, d'abord, tous ces établissements ont souvent une histoire longue. Hein. Saint-Germain a 150 ans depuis 2017, ça fait 150 ans qu'il est ouvert, mais c'est le cas de nombre de musées. Donc les musées ont été pendant très longtemps le lieu unique de dépôt des vestiges archéologiques trouvés, qui ont eu au fil du temps des statuts eux-mêmes très différents. Avant 1941, il n'y avait pas de loi sur l'archéologie, donc finalement il n'y avait pas de loi sur la propriété des collections. Donc les collections, elles se sont faites en fonction de la proximité d'un lieu auquel les détenteurs des vestiges faisaient confiance. Donc ces lieux, c'est par exemple pourquoi le musée du Grand Précigny, de l'exploitation du silex du Grand Précigny au troisième millénaire, il est situé au Grand Précigny, alors que archéologiquement parlant, il aurait été plus légitime de le localiser à Abilly, qui est plus une région archéologiquement productive. Sauf que les amateurs qui ont vraiment mis au jour et qui ont exploité scientifiquement les vestiges, eh bien, ils étaient du Grand Précigny, puis il y avait un château au Grand Précigny, donc c'était le meilleur endroit pour le mettre. Hein. Et aujourd'hui, pour faire simple et un peu caricatural, on a un peu tendance à dire les découvertes vont au plus proche du lieu de découverte quand il y a un musée à même de les accueillir. Et puis sinon, et ben après on voit. Hein, on voit qui est-ce qui est susceptible de pouvoir les abriter.
Une deuxième question. qu'est-ce qu'il en est depuis 2002, c'est-à-dire depuis la législation qui fait que l'archéo préventive est en plein boom? Et du coup, quel est le ressenti des musées par rapport à ça? Est-ce que les musées ont accès aux collections qui sont constituées depuis cette période qui fait que des dépôts sont énormes? Et dans quelle mesure et dans quelle, voilà.
Alors, les fouilles préventives, effectivement, sont génératrices de quantités de mobilier extrêmement importantes. Donc, il y a très, très peu de musées qui sont capables d'accueillir l'intégralité de ce mobilier. Alors, il existe des cas où, effectivement, les centres de conservation et d'études sont très liés au musée, c'est-à-dire, globalement, ce sont les personnels du musée qui ouvrent et qui ferment les portes du CCE et qui gèrent le matériel en collaboration avec les services de l'État, les services régionaux de l'archéologie. Mais sinon, le cas le plus fréquent, c'est... Le produit des fouilles préventives va dans les CCE. Ensuite, vous avez, il y a toute la question effectivement du règlement du statut de la propriété de ces collections. Mais le plus souvent, ils sont une partie de ce mobilier est déposée dans les musées pour exposition. Ça, c'est le cas le plus fréquent, sauf quand les ensembles sont relativement peu importants numériquement. Dans ces cas-là, ce que demandent les SRA, c'est que les musées prennent en charge l'intégralité du matériel. En tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est à ne pas dissocier la propriété du matériel, de façon à ce que les choses soient quand même assez claires, en disant tout le matériel de tel site et un matériel qui appartient à l'État, et une partie est déposée dans un musée municipal, départemental, voire national. Mais les affectations de collections complètes ne sont pas le cas le plus fréquent. Cela dit, les SRA n'ont pas tous la même politique. Pour certains SRA, c'est où le musée prend tout, où il n'aura rien. Ou pour certains SRA, il est bien évident que le musée a vocation à présenter au public ce qui est muséographiquement et donc pédagogiquement présentable, c'est-à-dire explicable, qui ressemble à quelque chose et qui est porteur de sens. Et puis le reste, c'est du matériel d'études, et donc ça peut être conditionné sous la responsabilité de quelqu'un de différent. Mais vous avez, il n'y a pas une politique à l'échelon national.
Une autre question par ici.
Bonjour, Florent Blin, donc, je suis historien de l'art et puis animateur culturel indépendant pour différentes institutions. Alors, j'aurais voulu savoir si vous connaissiez sur le territoire le musée de la Sablinne à Lussac-les-Châteaux.
Oui, bien sûr.
Qui est un exemple, à mon avis, un cas d'école entre ce que vous dites sur les pédagogies qui peuvent être généralistes sur une période et puis des collections très particulières qui sont le fruit d'une découverte locale. Donc, moi, le cas de Lussac-les-Châteaux me laisse un petit peu perplexe et puis du coup, j'aurais aimé avoir votre opinion dessus puisque vous le connaissez. Et puis autrement, pour... aller un petit peu plus loin dans ce que vous dites. À la fois, je comprends votre argument. À la fois, ça pose aussi la question de l'égalité des territoires et de leur accès à la culture. Parce qu'on sait très bien que les pièces extraordinaires type Vase de Vix ou le retable d'Isenheim pour le musée de Colmar ou des choses comme ça sont des pièces qui font vivre le musée et qui font vivre la localité. Donc, quid de ces musées et de ces lieux-là si les pièces extraordinaires rejoignent les musées nationaux?
Mais d'abord, je n'ai absolument pas dit que les pièces extraordinaires devaient rejoindre les musées nationaux. Attention. Non, mais ça, je pense que c'est des cas assez particuliers. Si on prend d'abord Vix, Châtillon, ce n'est pas un musée national. Cela dit, malheureusement, le trésor de Vix a un peu de mal à faire vivre le musée du Châtillonnais qui est difficile d'accès. Mais en tout cas, il n'est absolument pas question qu'il quitte Châtillon. Et le seul exemple comparable qu'on connaisse, qui est la découverte de Lavaux, près de Troyes, qui est aussi une tombe princière de la fin du premier âge du fer, et bien le trésor de Lavaux ira rejoindre le musée de Troyes. Donc là, il n'est pas du tout question que les plus belles pièces rejoignent les musées nationaux. L'idée, c'est plutôt de dire les musées nationaux ont une vocation, à mon sens, d'anthropologie culturelle et doivent donc pouvoir disposer des éléments qui permettent effectivement d'évoquer, là en l'occurrence pour l'histoire de la Chaudière, les modes de vie des Romains en Gaule. Alors que cette pièce, complètement isolée, serait à Arkéa, pour le coup, complètement isolée. Puisque, contrairement, par exemple, si vous prenez Vix ou Lavaux, c'est important que ça reste territorialement ancré, puisqu'en fait, ça illustre toute la vocation qu'a eue cette région-là à être à une zone de passage, d'échange entre la Méditerranée et l'Europe du Nord. C'est pas le cas de la Chaudière, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, c'est pas fondé sur l'idée que les plus belles pièces doivent aller dans un musée national. En revanche, je dirais que ça n'a pas de sens de mettre des objets exceptionnels dans un tout petit musée de village, je dirais, où il va absolument pas être parlant, où ça va être très, très compliqué d'arriver à lui donner son véritable sens et où, de surcroît, il va rencontrer un public en nombre assez restreint. Donc, je pense que tout est quand même une question de cas par cas. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on arrive à affirmer des vraies missions à la fois différentes et complémentaires entre les différents types de musées. Et pour Lussac, je dirais que moi j'aime bien le musée de Lussac pour la bonne raison que c'est un musée qui a une toute petite collection. Elle n'est pas énorme, la collection. En revanche, c'est une collection qui provient de sites qui sont au pied du musée. C'est-à-dire que pour le public de Lussac, l'environnement, les conditions, l'origine de ces collections, elle est immédiatement perceptible. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qu'a su faire Lussac, c'est que justement, ayant une collection de petite taille quand même, difficile, pas spectaculaire en elle-même, ils ont fait un énorme effort de présentation pédagogique à côté des collections qui est extrêmement parlant. Et c'est un musée qui est d'ailleurs bien visité et qui est un musée extrêmement agréable à visiter. Et parce qu'il a cette cohérence d'implantation territoriale, de mise en évidence de quelque chose de spécifique à ce territoire, et puis de le resituer dans le cadre d'une volonté affirmée, c'est-à-dire d'avoir fait le choix d'être un musée pédagogique.
Dernière question peut-être, mais vous restez parmi nous, bien sûr.
Oui, Isabelle Bertrand, musée de Chauvigny et Association des archéologues de Poitou-Charentes. Je voulais juste peut-être, il est peut-être utile de préciser que les musées qui sont susceptibles de recevoir les collections ou une partie des collections issues de la fouille préventive, c'est les musées labellisés Musée de France, quand même, normalement.
Normalement, oui. Oui. Mais
et ce qui normalement offre des garanties de, voilà, je veux dire qu'un petit musée ouvert par une association, n'est pas destiné à recevoir le fruit de l'archéologie préventive. Je pense que ce label-là.
Je pense que de toute façon, c'est la pratique du dépôt est finalement une pratique extrêmement sûre. C'est-à-dire que choisir déposer, ça permet d'assurer un suivi, c'est-à-dire ça permet à la fois de faire confiance et si ça marche quand même.
Non mais.
Ah bah oui, bah ça, l'État, il est responsable du produit des fouilles. Ça, c'est sa mission. Les services régionaux, c'est leur rôle. Il y a pas. Mais un musée, c'est lui qui va demander le dépôt.
Quand on parle musée, Catherine, on est bien d'accord qu'on parle des musées labellisés Musée de France.
Oui, bah oui, de toute façon.
Mais pour toi, c'est une évidence, mais je suis pas certaine que pour le public.
Les musées labellisés Musée de France, ça peut être des musées d'association déjà.
Oui, mais tout à fait.
Ça représente.
Mais je veux dire qu'il existe en France des musées, je sais pas, du couteau, de la poupée, dans des petits... Et ceux-là ne sont pas habilités à recevoir ce genre de choses. Non, mais pour le public qui est là, pour toi qui es immergé dans la notion de musée, c'est ce que je veux dire.
Voilà, mais de toute façon, le dépôt, il est demandé, et puis après, il faut qu'il soit accordé. Pour qu'il soit accordé, il faut non seulement que le musée soit Musée de France, mais il faut aussi qu'il y ait une raison pour que ces collections aillent là. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'elles soient à la fois bien conservées, qu'elles s'intègrent quand même à quelque chose qui puisse faire sens pour un public, et non pas simplement de dire « moi, je veux ce baudet à jouer gallo-romain parce que je l'aime bien ». Ça, c'est pas un argument. Donc, le but... Et j'aime bien la pratique du dépôt parce que je trouve que ça permet d'être généreux et de pouvoir finalement avoir un garde-fou qui est de dire si finalement le musée qui a demandé le dépôt ne joue pas le jeu de... correctement les conserver et de correctement les valoriser, on met fin au dépôt. Alors qu'une fois que vous avez fait un transfert de collection, eh bien après, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien.
Ok. On en reste là pour l'instant et on ne veut pas forcément entrer dans des dialogues simplement co-personnels. Voilà. Je vais demander donc, le cas d'un petit musée, en l'occurrence Patrick Andrieux, qui est à la fois une partie de la tutelle, puisqu'il est conseiller municipal, si j'ose dire, et puis Régis Elan, donc vous allez nous présenter un cas d'école et puis vous pourrez réagir, Madame Le Boutin, à la présentation de ce cas d'école.
Oui, bonjour. Attendez, je vous laisse. Est-ce qu'on peut se mettre sur Internet?
Oui, c'est fait pour, je pense, à Thierry.
Bonjour.
Et commencez peut-être tout en installant l'affaire.
Oui, il faut déjà savoir où est Internet ici. Où est-ce qu'on se met sur Internet?
Il arrive, il va nous l'envoyer, je pense.
Ah, il va nous l'envoyer. Bon, bonjour. Donc, je représente à la fois... je fais partie de l'Université de Pays et je suis président de Sentier Préhistoire, conseiller municipal, et puis je suis aussi membre de la commission de la culture et de la commission tourisme aussi du Grand Angoulême. Notre association s'est battue pour mettre en valeur le roc de Serres, un site préhistorique à Serres. Et puis, grâce aux élus, grâce à beaucoup de monde, mais surtout au maire de Serres actuel, on a réussi à mettre en valeur ce roc. Les originaux, alors maintenant, où est-ce qu'on va ? Ah, pardon. Ce sont des blocs sculptés qui ont été trouvés par le docteur Henri Martin en 1927. Pub d'études. On peut monter le son ? La commune de Serres, c'est en Charente, à une vingtaine de minutes d'Angoulême. Le docteur Henri Martin a donc trouvé des blocs sculptés qui étaient... Lui, il les a trouvés sous terre, donc il n'avait pas compris que c'était une frise pariétale. Plus tard, Germaine Henri Martin, en 51, reprenant les fouilles, a trouvé encore deux sculptures à même la paroi rocheuse et a établi que c'était en fait là, une frise pariétale sculptée de l'époque solutréenne et donc la plus vieille au monde, sculptée en tant que sculpture. Donc les originaux sont à Sergin, au musée de Saint-Germain-en-Laye. Heureusement que les originaux sont au musée de Saint-Germain-en-Laye parce qu'ils auraient été détruits. Donc c'est très bien qu'ils soient dans un musée. ils ont été préservés. Mais heureusement aussi que maintenant, la technique a permis de numériser ces blocs, ces sculptures, et de les reproduire au laser par une entreprise de Libourne. Donc là, l'avantage, c'est que les blocs, ils sont sur leur propre territoire d'origine. Et c'est là, en ce qui concerne la créativité du territoire, là, il a fallu quand même beaucoup de science de tout le monde, la technique du laser, la technique de la numérisation, pour en arriver là. Notre association, donc, pour animer le Roc de Serre, organise régulièrement des samedis de la préhistoire en faisant venir des préhistoriens de préférence, mais pas toujours, parce que des fois, on organise aussi des conférences avec d'autres thèmes pour justement essayer d'amener les gens qui ne se sont pas intéressés à la préhistoire avant. Mais donc la dernière préhistorienne qui est venue, c'était Sylvana Condemi, qui est venue en décembre. La prochaine sera Marilène Patou-Matisse au mois de mai. Mais entre-temps, on organise d'autres samedis de la préhistoire avec d'autres thèmes. Voilà. Ça c'est fini en ce qui concerne ça.
Bon, l'exemple qui est présenté, donc, sert à une petite commune de 900 habitants en banlieue, pour ainsi dire, d'Angoulême, avec un site. C'est le site, la valeur du site qui est la plus muséologique, si je puis dire. Et c'est celle que recherche le public. Les collections de Fritz La Frise, les différents blocs ont été stockés, déposés plus exactement au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et la question, c'est de voir dans quelle mesure ce musée local qui comporte des copies permet de focaliser l'intérêt du public sur des réflexions autour de la préhistoire et des différentes composantes de l'archéologie dans ce domaine-là, avec 5-6 conférences par an en moyenne sur ce sujet tous les ans, depuis
une quinzaine d'années.
Voilà. Alors, autour de cette initiative, l'Université de Pays, dont j'assure la présidence, c'est une association qui organise donc chaque mois 2 à 3 conférences, dont une partie porte sur la préhistoire ou l'histoire ou le patrimoine, d'une manière générale, mais d'autres parties sur la connaissance du pays, de ses entreprises, de ses métiers, ou sur des sujets plus géologiques. Nous avons dans cette région-là le karst et la résurgence de la Touvre. Donc prochainement, une conférence sur l'exploration de ces galeries noyées de 200 mètres de profondeur à peu près autour d'Angoulême. Donc nous avons là-dessus une quarantaine de personnes au minimum à chaque conférence, et nous regroupons dans une association pour supporter cet effort-là, qui est un effort bénévole, hein, sans subvention. Nous regroupons à peu près 400 participants, des seniors pour la plupart et des habitants de ce pays, pratiquement tous. Donc comment, autour de cette préoccupation muséologique peut-être, mais en tout cas simplement historique, racine, finalement, le public reste fidèle. On s'aperçoit que ce qui mobilise le public, c'est à la fois le contact avec des chercheurs qui viennent là avec leur langage, leurs préoccupations, et peut-être quelquefois le décalage du spécialiste par rapport au grand public. Ça peut être la documentation, la lecture. La plupart des gens qui viennent là, chercheurs, ont publié. Bruno Moreil récemment, Sylviana Comini également, ont publié dans leur discipline des bouquins qu'ils vendent. On s'aperçoit qu'il y a un public pour les acheter dans notre domaine. Donc on se dit qu'il y a quelque part, à des échelles basiques, la couronne d'Angoulême, c'est une zone rurale de 50 000 habitants, quoi, à peu près, qu'il y a dans ces échelons basiques du territoire un intérêt, une affection, pour ainsi dire, sur ce qui s'y est passé, et qu'il y a, à l'égard des recherches, même si elles sont pointues et si elles les dépassent, tout ce qui est néandertal obtient beaucoup de succès dans ses conférences, mais il est évident que Néandertal, il y a deux ou trois sites dans le secteur autour d'Angoulême, mais pour le public basique, c'est quelque chose de mobilisateur, mais en termes de comment dire, de devinette en quelque sorte, plus qu'en termes de démarche scientifique et de pédagogie scientifique.
Et donc à part ça, donc le Sentier pour l'Histoire a aussi donc créé non pas un musée, mais une salle d'interprétation avec uniquement des copies, parce qu'en fait les originaux on s'en passe très bien. Donc on explique là toute la chronologie de la préhistoire. On a même des dinosaures ici aussi, bien avant les humains. Et donc même les écoles viennent là, même on organise des temps d'application périscolaire aussi, les fameux TAP, où les petits peuvent venir prendre connaissance de ce qu'on a créé ici et de tout ce qu'il y a autour de la préhistoire.
L'ambition qu'on a plus largement, c'est de se dire que ce qui a été fait à l'échelle d'un village, en gros, peut être ouvert, généralisé, peut-être, à l'échelle d'une petite région. Il y a autour de l'Angoumois, enfin dans l'Angoumois, autour d'Angoulême, une quinzaine de sites qui sont des grottes qui ont été... Alors l'Aquina, qu'on a cité tout à l'heure, qui est à 15 km à peu près, 20 km de Serre, qui a été une des premiers lieux fouillés par Henri Martin, qui a donné son nom à une période précise de la stratigraphie paléontologique. Il y a les grottes du Placard, la Chaire à Calvin, et d'autres grottes encore dans ce secteur, qui sont des sites de fouilles, encore utilisés de temps en temps, et devant lesquels le passage des touristes, alors le passage des touristes à distance évidemment, avec des protections, avec des préventions bien entendu, peut mobiliser du public, et sans vouloir faire de comparaison pour être à outrancière, avec Lascaux en Dordogne, pas si loin que ça, on se dit que les moyens d'explication ou de présentation virtuelle qui permettent d'avoir sur un site donné, dans un cadre donné, on voit que celui de Serres a conservé une grande partie de son attrait à travers ses falaises, ses marais et ses zones de pêche qui avaient mobilisé les gens à cette époque-là, enfin 35 000 ans sur le secteur. On voit que tout ça, ça parle au public, de le voir in situ, d'avoir dans les autres sites également cette vision de ce qu'était l'Aquina, c'est aussi la vallée du Voultron, une espèce de petite falaise continue, pas très haute, mais qui fait plus de 500 mètres, et derrière laquelle ou au pied de laquelle se sont établis pas mal de lieux aujourd'hui exploités par les fouilles. La vision de ces sites, conjuguée avec une vision organisée par des moyens virtuels de ce que pouvaient être les restes recueillis, les problématiques de vie, les problématiques de société à ces époques-là, ça renforce un peu le lien du public avec ce secteur de son histoire. Alors, ça n'a pas la puissance d'un musée. Ça n'a pas l'attrait que peut représenter un musée situé dans une grande ville, bien entendu, mais c'est un échelon de muséographie, son titre, mais qui permet de mobiliser du public là-dessus. Alors, on ne va pas faire la comparaison avec Lascaux, vous ne l'avez pas évoqué d'ailleurs, ou très peu, mais découverte de Lascaux, elle était au départ celle d'un simple trou qu'on a protégé, qu'on a exploité bien entendu, mais qui a été projeté ensuite. Et c'est cette projection à notre échelle que nous essayons de rechercher dans ce territoire de 50 000 habitants.
Ok, merci pour cette présentation. Je ne sais pas, Madame Le Boutin, si vous avez des questions ou réagir un peu à ce sujet, vous pouvez passer le micro.
Non, mais simplement pour dire qu'un site et un musée, ce n'est pas la même chose. Et que, oui. Effectivement, la mise à l'abri dans un musée d'éléments qui sont a priori des éléments qui font partie de l'environnement, hein, qui ne sont pas des éléments mobiliers, mais qui sont des éléments immobiliers, c'est à peu près indispensable pour leur survie. Hein. Regardez à Angle sur l'Anglin, par exemple, on a fait un centre tout à côté, parce qu'il n'est pas question pour la protection des éléments de donner accès largement à ce site. Hein. C'est la même chose pour Lascaux ou pour Cosquer. Moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, ces sites qui restituent de façon artificielle avec des moulages ou parce qu'on reconstitue le site, ça permet de donner des ambiances. Hein, des ambiances, à la fois des idées de volume, des idées de localisation dans le paysage. C'est pour ça que, hein, je ne devrais pas le dire, mais je trouve aberrant qu'on ait fait une reproduction de Cosquer qui n'est pas à l'échelle 1-1. Enfin, je trouve ça aberrant. Ça n'a pas de sens. L'intérêt de ces reconstitutions, c'est effectivement de donner ces notions de où c'était, quel volume ça pouvait prendre, en quoi c'était impressionnant, etc. Donc, toutes ces reconstitutions in situ d'éléments originaux qui ne peuvent pas être rendus accessibles sur place, pour ma part, je trouve ça très bien. Mais ce n'est pas la même chose. Et il faut que les offres, je dirais, soient complémentaires.
Merci pour toutes ces précisions et cet éclairage. Je ne vous ai pas oublié, mais il y a aussi ce monsieur qui va demander la parole.
Oui, bonjour, je suis Vincent Aguillon, agent territorial d'une collectivité dans le Nord-Vienne et associé à un travail sur le néolithique avec Vincent Hart, dont je suis un coordinateur d'un axe. Je voulais vous poser la question, Madame Louboutin, sur les mises en valeur en général qui sont faites dans les musées, notamment depuis quelques années, où on laisse une large part aux scénographies, aux visites virtuelles, à ce qu'on appelle l'interactivité finalement, et souvent au détriment des mobiliers, qui sont souvent d'ailleurs assez dépouillés, bien faits hein, parfois. Mais est-ce que vous ne craignez pas que justement, à force de travailler trop les virtualités ou les scénographies modernes, on en oublie finalement l'existence des mobiliers au sein même des musées, où du coup ils se trouvent souvent cantonnés dans les archives et peut-être un peu moins exposés qu'au préalable. Moi je me pose un peu la question, parce qu'on va devoir aménager un musée, peut-être une salle néolithique justement liée au travail que l'on fait en ce moment. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ce bon équilibre peut-être qu'on peut avoir entre les mobiliers présentés et les scénographies un peu modernes.
Je dis toujours, un musée, ce n'est pas un livre. Hein. Donc si vous voulez des tas de compléments, de chemins parallèles, vous êtes beaucoup mieux dans votre fauteuil qu'à lire des panneaux debout dans un musée. Et d'autre part, je pense qu'un musée, c'est le seul lieu où on vous présentera des objets originaux. Et je pense que notre rôle, c'est aussi de jouer sur la sensibilité du public. C'est-à-dire que les gens puissent se dire, bah, effectivement, ça a 50 000 ans, ça a 4 000 ans. Alors ensuite, l'archéologie nécessite un accompagnement didactique. C'est important de pouvoir comprendre. Maintenant, cet accompagnement, il doit accompagner, il ne doit pas noyer le matériel archéologique. Donc après, vous avez effectivement toutes les ressources qui sont soit au plus près de l'objet, soit au contraire dans des salles à côté, dans des diverticules de présentation. Mais en tout cas, les gens, ils doivent trouver au musée ce qu'ils ne trouveront pas ailleurs, c'est-à-dire le contact direct avec effectivement le matériel original, mais avec suffisamment, mais pas trop, d'accompagnement pour pouvoir le comprendre.
Deux questions, je crois.
C'était pas vraiment une question, c'était, pardon, Anne-Sophie Martineau, donc toujours. C'est le son ne le sait pas, je sais bien. Non, c'était pas une question, c'était une réaction. Tout à l'heure, vous parliez de musée de site et vous parliez du fait qu'il était pratiquement impossible d'être sur place et que du coup on avait des restitutions, etc. Je voulais juste donner un contre-exemple avec le musée de Périgueux qui est, voilà, il y a plein de musées de site qui sont sur site et qui sont vraiment des réussites. Moi je voulais juste citer celui de Périgueux parce que celui que j'ai visité et qui est très bien. Et aussi oui, c'est ça. Il y a aussi la possibilité, alors je sais que c'est beaucoup plus anecdotique parce que c'est ponctuel et que ce n'est pas des choses durables comme le sont les musées, mais il y a des visites des sites archéologiques en cours de fouille qui sont possibles dans de nombreux cadres. Voilà, oui, je voulais juste préciser.
Ça n'a rien d'exclusif. Hein. D'une part, Bougon, c'est un musée de site, par exemple. Hein. Donc, il n'est pas du tout question de dire qu'on ne peut pas laisser sur un site ce qui en provient. Hein. Sauf que, autant, effectivement, un site gallo-romain ou une villa gallo-romaine comme Vesuna, vous pouvez effectivement faire un musée au-dessus. Au-dessus d'une maison néolithique, c'est beaucoup plus difficile et ça dure beaucoup moins longtemps. Hein. Donc tout est une question de cas particulier. En tout cas, vous ne pouvez pas laisser de la sculpture paléolithique à l'air libre avec un toit par-dessus. Ça, c'est pas possible.
Isabelle Bertrand, alors c'est plutôt une remarque, et je pense qu'il ne faut pas qu'on reste sur le sujet des musées parce qu'on va dénaturer notre sujet de table ronde, mais je pense que il y a aussi toujours, nous sommes confrontés, alors nous, quand je dis nous, les gestionnaires de musées, mais aussi les gestionnaires de sites archéologiques, tout ce qui est médiation, faire des choix. On fait des choix sur le terrain, quand on est sur la fouille, et après, si on est dans la phase exposition et mise en valeur du public, on fait aussi des choix. Alors effectivement, en fonction du critère que les éléments soient les plus représentatifs d'un territoire, d'un mode de pensée, d'une culture, etc. Il ne faut pas oublier aussi qu'un musée, c'est un iceberg. Il y a ce qui est présenté, puis il y a tout ce qui est en réserve et reste accessible sur demande, etc. Donc c'est des choix, oui. Et il y aura donc des frustrations pour ceux qui mettent au jour les éléments mobiliers. Mais ça, c'est normal, je dirais. Et tout l'enjeu de la créativité des gestionnaires de musées, des archéologues et de ceux qui les étudient, c'est de faire émerger les choses signifiantes. Et je pense que ça, c'est justement le point qui relie tout le monde. On essaie tous de faire émerger de toutes ces données des choses qui soient parlantes pour le public au sens très large.
Merci. Je vous propose peut-être de regagner. Vous, Madame Louboutin, vous pouvez rester puisqu'on va enchaîner un peu. Et je vous tiens voilà, oui, prisonnière. Monsieur, on va faire appel à un point de vue un peu particulier. Donc, c'est Monsieur Renaud Penel, qui est auteur de bande dessinée, dont j'ai eu le contact par le biais du festival de BD Archéo à Blois, je crois. Hein, c'est par cet intermédiaire-là. Donc, je vous laisse vous présenter. Et qu'est-ce que vous apportez, vous, sur ce thème, en tant que dessinateur de BD ?
Bonjour. En fait, moi, je vais parler d'une exposition qui a eu lieu en partenariat donc avec l'association BD Boom, qui organise un festival de bande dessinée à Blois tous les ans, qui est un assez gros festival, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Et puis, un autre festival qui se passe à Blois, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais c'est les rendez-vous de l'histoire, hein, qui sont 3 semaines avant. Et il y a eu un partenariat pour faire, quelque chose qui raconte au public, au grand public, le travail des archéologues locaux qui travaillent sur la ville, ses environs immédiats. Et puis pour faire... là, donc, c'est pas montrer les pièces qu'ils ont trouvées comme dans le cas d'un musée, c'est vraiment essayer d'imaginer, comme on peut voir dans certaines bandes dessinées plus ou moins fantaisistes, plutôt plus que moins en général, mais voilà. Et donc, le principe de la bande dessinée, de l'exposition, c'était de prendre 5 périodes d'objets, de fragments d'objets, etc., qui ont été trouvés... et puis d'en faire des reconstitutions comme ça illustrées. Et puis il y a aussi une autre période qui est la dernière, qui est actuelle, où ils montraient un petit peu le travail des archéologues. Ça, c'était dans une salle qui appartient, les locaux de l'association BD Boom. Donc il y avait 30 panneaux des illustrations et puis 30 cartels. Avec les illustrations en noir et blanc et puis des petites bulles dessus avec plein de commentaires pour dire par exemple bah ça là on sait pas trop, ça on l'a fait comme ça mais on sait que c'était pas comme ça, voilà, enfin plein d'explications des archéologues et puis aussi un grand panneau d'introduction à chaque période. Donc voilà, je vous décris un peu tous ces panneaux parce que en fait ce qui est pratique dans quelque chose comme ça, c'est que ça peut se promener assez facilement. Donc pour faire un lien entre, on peut la mettre dans une école, dans une mairie, ça peut vraiment se promener. Et la ville de Blois l'avait fait avec une histoire de quartier comme ça, mais là beaucoup plus récente. Donc parler aux gens de ce que font les archéologues là où ils habitent et de leur donner une idée de ce qu'on peut imaginer de ce qu'était l'endroit où ils vivaient, où ils vivent maintenant avant. C'était ça vraiment l'intérêt de... Je cherche l'entrée. C'était ça l'intérêt du truc. Alors effectivement, on n'a rien à voir là avec l'approche musée, mais pour ce qui est de la vulgarisation, c'est très pratique. Puis ça a été en général vachement bien reçu par les habitants. Et alors je vais vous montrer juste un peu. Enfin, je vais faire un. Alors. C'est ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est. Il y avait deux illustrateurs. Mon collègue a fait l'affiche et deux périodes. La première, c'était paléolithique et après une autre période. Je suis désolé, je ne me souviens plus trop. Après, moi, je me suis occupé de l'Antiquité. Ouvrir avec ça, c'est très bien. Voilà, alors. Voilà. Donc. Ah oui, alors je disais. Voilà, là on est dans l'Antiquité. J'ai eu, moi, des photographies prises par des archéologues dans un petit avion actuel. Donc il a fallu que je reparte de cette photo. Et à peu près à chaque période est introduite par une photo par la même vue, en fait. Donc voilà, là on est sur l'Antiquité. Alors je vais circuler un peu rapidement, mais. Alors là par exemple, ici, on a un tumulus qu'on va retrouver un peu plus tard et qui existe encore plus ou moins. Ça, c'est une cave dont ils ont retrouvé l'escalier, et puis la pièce aussi, là, les renfoncements où sont rangés des amphores et des pots, c'était tel quel. Enfin. Donc, ils avaient présenté quelques photos sur les panneaux d'introduction à chaque période. Ça, c'était un cimetière où ils ont retrouvé des restes d'enfants. C'était un peu, j'ai essayé de scénariser, de faire une petite histoire, les archéologues en question. Alors oui, j'ai travaillé avec donc deux archéologues qui sont Viviane Aubourg et Didier Josset. Et donc, ils me donnaient la description de chaque image et les éléments, le plus possible d'éléments. Donc, moi, il fallait que j'absorbe tout ça et puis que je le digère pour faire ces illustrations. Donc là, voilà, ça, c'est le Haut Moyen-Âge. Peut-être je vais trop vite parce que je les connais moi. Là par exemple, ils étaient très fiers de cette pièce qu'ils avaient trouvée. Vous voyez un moine là qui est en train de fabriquer des hosties et la presse à hosties. Voilà, ça c'était un truc qu'ils ont retrouvé et dont ils étaient très contents. Donc effectivement, ça m'a fait rire aussi. Mais bon, voilà. Moi, je découvre. Enfin, voilà. N'y connaissant rien. Enfin, voilà. En archéologie, histoire, tout ça, c'est pas du tout mon domaine à la base. Donc, c'est super bien d'avoir pu découvrir plein de choses, comme les visiteurs. Voilà. Alors là, on est au XIIIe siècle, avec un super pont. Là, on a des gravures. Plus ou moins discutables qui ont été faits a posteriori, tout ça, mais bon, que j'ai plus ou moins repris avec les conseils des archéologues en question. Voilà, qu'on essaye de mettre ça un peu en scène et de nourrir de détails quand, comme on peut aussi, d'essayer de faire quelque chose de vivant. Donc, mais en essayant de dire, d'inventer le moins possible, évidemment. Voilà, donc la période moderne, donc on a la ville un peu telle qu'elle est maintenant, dans un esprit un peu plus Tintin, là, comme style graphique, et puis sous forme un peu comme ça, holographique, fantomatique, des éléments anciens qu'on avait dans les illustrations précédentes. Et par exemple, dans le panneau de commentaires qui était juste à côté, ben, on voit que il y a des piles de bois là qui sont devant le pont, en fait, qui sont pour couper le courant s'il y a des bois flottants, des choses comme ça, histoire de pas abîmer le pont en question. Mais comme en fait le sens du courant est dans l'autre sens, ils sont pas bien placés, donc ils devraient être de l'autre côté. Alors voilà, moi je les ai mis là, et puis après ils ont vu ça, ils ont dit ah ben non, normalement il n'aurait pas dû y en avoir là, normalement c'est de l'autre côté, mais si on les avait mis de l'autre côté, on les aurait pas vus. Donc voilà, donc il dit bah, laisse-les, on va les mettre là, comme ça on les voit, mais on va mettre le commentaire comme quoi ils auraient dû être de l'autre côté, comme ça tout le monde est content. Voilà, donc cet échange-là, il est vraiment, moi ça m'a vachement plu de faire ça. C'est vraiment très très contraignant, mais j'ai rien contre la contrainte, donc moi ça m'a vraiment intéressé, fait plaisir. Même principe avec des choses qui ont disparu, qui réapparaissent là, et donc un site de fouille. Bon, alors la hutte, hein, on n'est pas sûr qu'elle était là, mais le reste aussi. Voilà, donc ça vous connaissez un peu tout le travail qu'on a sur un site de fouille, et puis le travail après de reconstitution des objets, Voilà, ça c'était chouette aussi à faire comme dessin. C'était un peu compliqué. C'était compliqué. C'est parce qu'ils m'ont dit oui, tu vas faire une vitre transparente comme ça, et avec genre enquête policière, avec les trucs scotchés devant pour mettre un petit peu un côté polar. Comme ça, je dis bah ouais, c'est super. Il y a déjà plein d'éléments partout. Après, il va y avoir un truc transparent, puis des trucs scotchés dessus. Ça va être facile à faire. Voilà. Bon, c'est bien entendu. Donc, c'est vraiment des gens adorables avec qui j'ai travaillé. Voilà. Donc, les photos aériennes qu'on m'a données, bah, c'est pris dans ces conditions-là. Ils étaient dans cet avion-là, précisément. Et puis voilà, par exemple, là, ça c'est donc la Loire, et le travail avec les suceuses, là, qu'on voit ici, pour déblayer l'argile, les poussières, tout ça. Enfin bon, voilà, donc j'ai fait le tour des... Enfin voilà, ça c'est les illustrations que j'ai faites, et... Voilà, je voulais juste dire que ce genre de principe, en fait, de promener des petites expos comme ça, relativement légères. Bon, là, il y a beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup de boulot, hein, mais c'est un côté pratique, et puis ça fait vraiment très plaisir aux gens. Enfin, dire, ah ouais, moi j'habite, ah ouais, là où j'ai les pieds, il y avait ça c'est dingue. Enfin, donc toute cette vie-là, je trouve que ça... Parce qu'on parle de créativité, là, donc là, je trouve qu'il y a de la créativité à plein de niveaux différents, autant au niveau de l'exposition elle-même que de la réaction des visiteurs, que du travail que j'ai pu faire et que aussi les archéologues ont fait, parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à scénariser non plus, c'est pas leur métier. Donc, scénariser des images comme ça, des petites séries, c'était aussi intéressant pour eux. Enfin, voilà. On parle de créativité, donc je pense que là-dedans, il y en avait beaucoup. Et puis, le contact est intéressant.
Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions ou des regards ou des remarques parmi ceux qui sont dans la salle, qui ne sont pas exprimés jusqu'à présent ?
Les panneaux sont disponibles ?
Alors là, il faut voir avec BD Boom et les rendez-vous de l'histoire, enfin plutôt BD Boom, hein, parce que c'est eux qui sont occupés de ça, mais a priori, eux, ils louent leurs expositions d'habitude, donc je ne vois pas pourquoi celle-là, ce serait différent. Je pense que ça doit être possible. Et puis on est aussi en train de travailler, voilà, pour l'instant, c'est qu'un projet, j'espère qu'il va aboutir, mais sur la mise en livre en fait de cette expo-là. Donc là, je ferai pour des raisons pratiques, etc. Ils préfèrent qu'il y ait qu'un seul dessinateur, donc je vais refaire les panneaux qui ont été faits par mon collègue. Mais voilà, enfin, on veut faire aussi un bouquin avec ça, donc on va voir si ça va se faire ou pas. Mais donc la DRAC de la région, attends, de la région, voilà, Centre et Nigny, c'est un peu plus loin, et voilà, et Val-de-Loire, et partenaire. Enfin, il y a énormément de gens là, donc c'est un peu des usines à gaz, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, ouais. Oui. Le mieux, c'est de voir avec BD Boom, en fait. Ouais, je pense. Ouais.
Oui, toujours Florent Blin, animateur culturel. Je pense qu'on. Alors, d'abord, je voulais vous féliciter pour votre travail et puis dire que vous.
Merci.
Je pense qu'on est vraiment au cœur d'une des problématiques essentielles, qui est de savoir raconter l'archéologie, qui a des. Parce que j'ai cette petite impression en tant qu'historien de l'art, de plus on remonte, plus ça peut être abstrait pour les gens, plus ça peut être un petit peu abscon à expliquer et très, très technique, très difficile. Et le storytelling, le storyboarding que peut faire la bande dessinée est un outil essentiel. Ça me rappelle un petit peu le travail que j'avais vu d'un dessinateur qui avait exposé au musée de l'art antique, mais pas que là, qui faisait d'énormes panoramas.
Golvin,
Voilà, j'avais oublié le nom. Très, très spectaculaire. Et l'exposition était vraiment magnifique, vraiment une belle émotion.
Ouais, les planches didactiques comme ça, c'est toujours. On a tous des souvenirs d'enfants, avec des doubles pages de magazines ou des trucs comme ça, où on passe des heures à regarder les détails et tout.
Je pense qu'il y a deux choses aussi, et pour en revenir à la notion de territoire, ce qui est intéressant dans ce genre de démarche, c'est de montrer un même espace à différents moments. Il y avait un livre comme ça, qui était un grand livre pour enfants, qui est Histoire d'une ville, je crois que ça s'appelait, où on avait effectivement, c'était le quai, alors je ne sais pas si c'est de la Seine ou de la Loire, peu importe, mais on allait du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, et moi je me souviens, mes petits-enfants, ils disaient, à un moment, il y a trois gens là, et puis là, maintenant, il y en a 300, et puis là, il y a des maisons, et puis avant, il n'y avait qu'une cabane. C'est-à-dire que, effectivement, ces dessins qui se superposent au fil du temps, c'est extrêmement parlant pour voir, effectivement, quelle est l'emprise humaine sur un territoire.
Oui, et puis la façon de présenter. Je me souviens, moi, quand j'étais à l'école primaire, on avait eu une visite comme ça, on était allé à la mairie, et puis il y avait quelqu'un qui nous avait expliqué un peu comment c'était, pourquoi ce quartier s'appelait comme ça. C'était Vaugirard, donc Val-Girard,
trucs
comme ça. Et le gars avait dit, avant il y avait un champ et à ma place il y avait une vache. Bon, ça nous avait fait rire. C'est un peu couillon, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on attrape un peu l'intérêt des gens.
Le plus difficile, c'est d'éviter les erreurs archéologiques. Oui, moi, je ne vous dirai rien. En plus, vous êtes dénoncé pour votre, pour votre pont.
Oui, mais il y en a forcément.
On va vous pardonner. Ouais. Mais après, effectivement, il y a des choses qui relèvent de l'erreur non pardonnable. Et puis, il y a des choses qui relèvent de vide comblé, parce qu'on ne va pas mettre des petits personnages tout nus en plein hiver, parce qu'on ne sait pas comment ils étaient habillés.
Par exemple,
donc à un moment, il faut effectivement choisir quelque chose qui soit un petit peu crédible.
À un moment, j'ai soulevé la couleur des vêtements. On me dit, on ne sait pas, fais comme tu as envie. L'important, c'est qu'on le dise en même temps qu'on le présente.
Ce que j'aime bien dans votre façon de dessiner, je dirais contrairement à Golvin, c'est ce que je reproche aux aquarelles de Golvin, c'est que c'est tout propre, tout net, il n'y a pas un papier qui traîne dans les rues. Et du coup, ça, je trouve, ça a un côté un peu glacé. Alors que je trouve que vos dessins, ils sont très, très réalistes, dans le sens où on a vraiment l'impression que la rue, là, il a plu il n'y a pas trois jours, ça doit un peu salir les pieds. Et c'est un côté plus réel, je dirais pas réaliste, un côté plus réel que des dessins qui sont plus archéologiques, peut-être. Mais du coup, moins humain.
Ouais. Les miens, ils sont un petit peu flous, mais c'est vrai que c'est vachement important pour moi de, par exemple, je pensais toujours à mettre des petites plantes qui poussent au pied des murs, parce que on en a partout, même en ville aujourd'hui.
Ce genre de choses. C'est un vrai atout de votre façon de dessiner.
Bruno Dufailly, responsable du service de l'archéologie du département d'Indre-et-Loire. Moi, j'ai deux questions, une question et puis une réflexion qui s'enchaîne avec ce que vous venez de dire. La question juste, c'est qui était à l'initiative de cette expo? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est BDB?
Je pense que ça vient pas mal des archéologues eux-mêmes et de BDB et des rendez-vous de l'histoire. Voilà, ça s'est monté un petit peu à...
Autrement dit, ça ne vient 23. Pas du politique au sens large.
Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne saurais pas dire. Je sais que BDBOOM, ils en font pas mal comme ça avec la mairie. Ils sont vraiment soutenus par la mairie. Ils sont en
ça
lien.
Ça ne s'inscrit pas dans une politique d'un établissement comme un musée ou comme...
Non.
C'est une espèce de coup non. comme ça
ouais,
parce
voilà,
qu'il y a une équipe ouais. qui travaille sur Blois.
Voilà.
Que je connais bien et qui sont d'ailleurs... Ouais. Et alors ma question-réflexion s'enchaîne sur les papiers dans les rues et aussi ce que vous avez dit sur l'image fixe. Actuellement, il est très à la mode de faire de la 3D en image de synthèse.
Mais c'est pas le même prix. Hein.
Alors, on est d'accord. Alors justement, je voulais savoir, il y a certainement à la fois, bien entendu, une question de coût, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi le souci que, à le moins d'investir des sommes faramineuses, dans une 3D, on ne met pas de papier parce qu'il faut, il faut être simple, sinon on fait du jeu vidéo et là, c'est des budgets qu'on ne peut même pas envisager. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas aussi une sorte de retour à la fascination de ces belles images d'autrefois ou est-ce que c'est parce que j'ai un certain âge que effectivement, je me rappelle de ça à l'école?
Ouais, c'est vrai que... c'est une question de sensibilité aussi, parce qu'en dessin, il y a aussi des dessins très nets, très propres et moins... moi, j'aime bien j'aime bien que ça vive. Et après, c'est beaucoup plus difficile de faire un truc super net, parce qu'on est obligé de rentrer dans le détail. Moi, si je fais un truc comme ça et qu'il y a juste du grain, c'est une vague tâche, on va imaginer ce qu'on veut, en fait. C'est vachement pratique. Ouais.
Mais ma question, c'était, est-ce que vous avez conscience d'une réception spécifique de la part des visiteurs, des spectateurs, par rapport aux images
ça parle
électroniques,
à tout le monde.
On va dire
ces images-là,
il
n'y
a pas une déception, disant, maintenant, quand même, on pourrait faire de la 3D, est-ce qu'au contraire, c'est beau, c'est pas, le regard doit être différent, mais est-ce que vous avez...
C'est pas une question de technique, c'est une question d'ambiance. Par exemple, l'image de la cave tout à l'heure avec les deux lumières qui arrivent dans les deux sens différents, comme ça, c'était assez cinématographique, on aurait dit Game of Thrones ou je sais pas quoi, dans l'ambiance. Donc il faut juste donner un peu d'ambiance et puis ça va marcher et ça marche avec vraiment tous les publics. Les gamins qui voient ça, ils sont c'est bien fait ou moi je sais pas dessiner comme ça.
Ça a pas le même rôle. Hein. On voit par exemple dans les musées qu'il y a un retour aux maquettes. Par rapport au 3D, mais aujourd'hui il y a un vrai retour à la maquette physique, qu'elle soit démontable ou pas. C'est-à-dire que cette notion, et pour moi ça va, c'est la même chose que le dessin. C'est-à-dire que c'est un côté, c'est une épaisseur psychologique et humaine qui est pas du tout la même chose que la 3D. Je dirais que la 3D, elle a, moi je lui donne un vrai rôle, par exemple pour permettre de voir des choses qu'on ne verra pas. Les objets, nous on a une politique par exemple de numérisation 3D de nos collections qui est importante, on a à peu près 700 modèles 3D maintenant, et c'est vraiment important, par exemple quand vous faites une exposition et que vous montrez un objet, utilisez la 3D pour montrer que cet objet il a effectivement une certaine épaisseur, qu'il est décoré sur les trois côté ou au contraire qu'il est décoré que sur la surface, etc. Donc il y a un apport qui est spécifique à la 3D, mais je dirais qui est plus de l'ordre de l'information plus que de la sensibilité, alors que la maquette et le dessin, on voit que c'est un attachement, c'est-à-dire, les gens ils aiment. Et je trouve que c'est pas du tout la même fonction et du coup la même façon de percevoir même par le public.
Bien, merci Monsieur Penel, vous pouvez rejoindre et on va demander à Aude Lazaro de nous rejoindre. Donc il nous vient des Alpes-Maritimes. Je vais lui laisser le soin de se présenter et de présenter son blog, surtout Archéon, pour laquelle nous l'avons sollicité.
Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Yod Lazaro. Guide conférencière et créatrice donc d'un blog Archéon dédié à l'archéologie, notamment dans les Alpes-Maritimes. Alors, moi, je suis ici pour vous parler de la conservation des vestiges archéologiques face aux enjeux de la créativité territoriale dans les Alpes-Maritimes, plus précisément. Il est derrière, je crois. Ouais. Oh oui, parfait. Et je l'ai envoyé balader. On recharge. Parfait. Alors. Et je vais commencer tout simplement avec des informations générales, avec un petit panorama historique sur la question, puisque entre 1955 et 1970, 7 hectares de l'agglomération antique de Lyon partent à la décharge. En 1977, c'est le cimetière médiéval d'Orléans, que vous voyez ici, qui est évacué de nuit dans des camions bâchés lors des travaux d'aménagement du Campo Santo. Les mosaïques romaines de Bordeaux finiront également à la décharge. Bref, vous l'aurez compris, dans la France des années 60-80, les démolitions du patrimoine archéologique vont bon train. Ces grands travaux d'aménagement et de reconstruction des villes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont alors réalisés sans souci des vestiges archéologiques. Ce n'est que dans les années 70, conjointement à ces grands travaux d'aménagement, parking, autoroutes, restructuration des centres urbains, que va naître l'archéologie préventive. C'est aussi à cette période que la législation relative à l'archéologie va se mettre en place, avec notamment la Convention de Malte en 1992. Sur le plan juridique, le Code du patrimoine stipule Le Code du patrimoine stipule que tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité constituent des éléments du patrimoine archéologique. Le Code de l'urbanisme indique quant à lui que le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges archéologiques. Mais alors, concrètement, comment cela se traduit-il sur le territoire ? Si on compare le nombre de dossiers d'aménagement instruits par rapport au nombre de fouilles archéologiques prescrites, on se rend compte que le taux de prescription de fouilles archéologiques n'excède que très rarement les 2%. Et globalement, dans ces 2%, il existe trois cas que j'aimerais donc maintenant vous présenter. Alors, le premier cas, c'est celui où la conservation des vestiges prime sur l'urbanisme. Néanmoins, vous constaterez que sur le plan culturel, ces choix participent sur la longue durée et après parfois de nombreuses décennies, de la créativité des territoires également. Alors, le premier exemple que j'ai choisi est celui de Cimiez, situé au nord-est de la ville de Nice. Donc ici, vous avez la ville de Nice, la colline du château. Et ici, Cimiez. C'est d'abord un site celto-ligure, avant que les Romains ne s'y installent au 1er siècle. Puis la cité antique est progressivement abandonnée dès le 5e siècle, quand la ville, on va dire quand les habitants se réunissent sur la colline pour former la ville médiévale. Cependant, la cité antique n'a jamais totalement disparu, puisque l'amphithéâtre que vous voyez ici et les thermes du Nord qu'on a longtemps appelé temple de Diane ou d'Apollon sont restés en élévation. Par exemple, dès le XVe siècle, vous avez un architecte florentin qui va relever le plan de ces thermes. Au XVIIe, c'est Michel de l'Hospital qui va décrire les vestiges qu'il observe. On le sait, la ruine attire, généralement. Donc, que ce soit des dessins, des tableaux et des gravures, les vestiges de la cité antique sont nombreux. C'est très important, cet aspect-là. Parce que, de fait, dès les années 1860, j'étais trop vite, les campagnes de fouilles vont se succéder, mettant à jour donc trois ensembles thermaux, un quartier d'habitation et un baptistère paléochrétien. Cependant, ce qui devait arriver est arrivé. En 1942, le site qui était jusqu'alors propriété des Garins de Coconato est vendu à une société immobilière qui prévoit de lotir l'intégralité de la zone avec donc le percement de nouvelles avenues qui sont ici, sachant que donc là vous avez le frigidarium des Thermes du Nord. Là, ce qu'on voit, ce sont les arènes, et tout ça, c'est le site archéologique actuel avec un oppidum, enfin l'oppidum celto-ligure. Mais la ville de Nice va décider de racheter les vestiges, de racheter le site. Les fouilles vont reprendre, et le premier musée d'archéologie sera donc aménagé dans la Villa Garin en 1960. Cependant, il est rapidement saturé. Il est donc transféré en 1989 dans un nouveau bâtiment qui, lui, est implanté sur le site. C'est donc un musée de site. Et c'est dans ce musée que sont exposées et conservées les découvertes archéologiques réalisées sur le site de Cimiez. Musée qui contribue à dynamiser ce quartier quand même quelque peu excentré, vous l'avez vu, même s'il ne totalisait en 2015 que 25 000 environ visiteurs, contre 173 000 pour le musée Matisse, donc l'artiste, qui est situé à seulement 50 mètres. Donc ce n'est pas une question de territoire, c'est une question, on va dire, de choix aussi, de la part des visiteurs. Cela reste cependant honorable en termes de fréquentation, car l'archéologie n'est pas un des centres d'intérêt des visiteurs, en tout cas pas dans ce département. Ils affectionnent essentiellement les musées d'art comme le MAMAC, qui est le musée d'art moderne et d'art contemporain, le musée Chagall, ou justement le musée Matisse, qui se classe généralement dans les 5 musées les plus fréquentés de la ville de Nice. Par ailleurs, un diagnostic sur la culture scientifique, technique et industrielle publié en 2004 révélait que, dans le domaine de la culture, les trois structures, donc je cite, les plus importantes sont le Marineland à Antibes, avec 1,5 million de visiteurs, le musée océanographique de Monaco et le parc naturel du Mercantour. Donc rien d'archéologique. Et d'ailleurs, la fréquentation du patrimoine archéologique du département tourne essentiellement entre 15 000 et 25 000 visiteurs par an et par site. C'est également le cas du trophée d'Auguste de la Turbie, qui est rattaché au réseau du Centre des monuments nationaux, qui a totalisé l'année dernière 19 000 visiteurs. C'est là encore un site romain, transformé en forteresse entre le XIIe et le XIVe siècle, XVe siècle, puis en carrière au XVIIIe pour la construction du village, avant qu'il ne soit protégé et classé au titre des monuments historiques en 1865. Aujourd'hui, c'est le principal attrait touristique de la commune de la Turbie, c'est ce qui fait vivre ce village, on va dire. Et on pourrait penser que ces exemples sont nombreux. Sauf qu'en réalité, ce sont les deux seuls musées de site ou sites avec musée de tout le département. Et si on y regarde bien, ils ont en commun un certain nombre de points. Tout d'abord, ce sont des monuments qui sont connus depuis des temps très anciens. Que ce soit dans des textes, dans des plans, dans des croquis, dès le XIVe, XVe siècle, on retrouve mention de ces édifices. Ils ont donc été étudiés très tôt par des, pas par des archéologues, bien sûr, mais par des architectes, des ingénieurs, des passionnés d'histoire, ou on va dire de ce qui était à l'époque l'archéologie. Par ailleurs, donc, comme je l'ai dit, ce sont des vestiges souvent représentés. Ils font partie de l'identité du territoire. Ils sont associés à un territoire. Et c'est un patrimoine, je rajouterais, monumental et antique. Très important parce qu'à cette époque-là, on s'intéresse surtout à la partie antique. Les vestiges médiévaux de Cimiez, enfin, antiquité tardive au Moyen-Âge, n'ont quasiment pas été étudiés. Ce qui m'amène au deuxième cas de, on va dire, de cette cohabitation, c'est ben justement le cas de la cohabitation, où le site est fouillé, mais pour des raisons pratiques ou d'urbanisme, il ne peut pas être laissé en l'état. Le site de Terramata est un bon exemple de cohabitation entre créativité territoriale et archéologie. En effet, en 1966, lors des travaux de terrassement pour la construction d'un immeuble, l'entrepreneur découvre des vestiges du paléolithique, toujours à Nice. À l'époque, l'archéologie préventive n'existe pas. Cependant, Henri Lumley va réussir à négocier 6 mois de fouille, ce qui peut paraître long, mais pour un site préhistorique, c'est excessivement court. Et ces fouilles vont mettre au jour un des plus anciens foyers de l'histoire de l'humanité, puisque c'est une des premières traces de la domestication du feu par les hommes. Néanmoins, à l'issue des fouilles, l'édifice, le bâtiment d'habitation est construit et le site détruit. Cependant, et c'est ce que vous avez ici, et c'est ce qui était ici en 1966, les deux premiers étages du bâtiment vont être conservés pour un musée, donc le musée de paléontologie humaine de Terramata, qui présente le résultat donc, de ces fouilles de sauvetage ainsi qu'un moulage du sol aujourd'hui perdu. Alors, depuis, le statut des vestiges archéologiques a évolué, ainsi que les techniques, ce qui m'amène au deuxième cas de cohabitation. C'est un dossier plus récent puisqu'il date de 2004. C'est pendant les travaux de réalisation de construction du tramway de la ligne de tramway de Nice qu'a été mis à jour un ensemble fortifié du XIVe siècle, donc autour de la vieille ville de Nice. Alors, les fouilles ont d'abord été réalisées à l'air libre, puis sous une dalle fermée qui supporte en fait les poutres de la voie du tramway, dans la mesure où il aurait été impossible de modifier le tracé. Ça a déjà été assez difficile de trouver où on allait faire passer ce tramway dans une trame urbaine qui, à Nice, est quand même assez compacte. Il était inenvisageable pour les autorités que l'archéologie vienne s'interposer avec notre première ligne de tramway, hein, très clairement. On a donc créé une crypte archéologique. Et la fouille a su s'adapter aux contraintes de réalisation du génie civil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez donc la place, le tramway, et dessous cette fouille archéologique qui se visite, bien sûr, en partenariat avec le Centre du patrimoine de la ville de Nice. Le troisième et dernier cas que j'aimerais vous présenter, c'est malheureusement le cas le plus fréquemment observé dans le département des Alpes-Maritimes. C'est le cas où l'urbanisme et l'aménagement du territoire prévalent sur la conservation des vestiges archéologiques. C'est par exemple le cas des travaux de construction de la faculté de lettres de Nice en 1966, ou plus récemment lors des travaux d'aménagement de la deuxième ligne de tramway. Là encore, la déviation du tracé était impossible. Donc le site a été fouillé, par contre, il n'y aura pas de crypte dans la mesure où les vestiges étaient moins lisibles pour le grand public. Des sépultures, un bastion, sépulture étudiée, démontée. Le bastion a été démonté pierre par pierre avec un calpinage, il sera éventuellement remonté ultérieurement, mais rien ne sera conservé sur place. Sur le long terme, il devrait y avoir ça. Non, c'est encore en travaux, c'est une image, pas de synthèse, mais c'est pas exactement encore la vue actuelle. C'est également le cas à Antibes du parking du préau pêcheur, un dossier qui avait fait pas mal de bruit, vous en avez peut-être entendu parler, avec la construction d'un parking souterrain sous l'esplanade du préau pêcheur devant les remparts, les anciens remparts d'Antibes. Les fouilles préventives avaient mis à jour les vestiges d'une épave romaine du 2e ou 3e siècle de notre ère, qui a été démontée et qui devrait être exposée après traitement dans un musée, mais alors dans lequel on ne sait pas, parce qu'aucun musée pour l'instant dans le département n'a la capacité d'accueillir les vestiges de cette épave. Et à l'emplacement du site se trouve aujourd'hui un joli parking sous la place. Voilà, donc ça c'est la place. Et là vous avez le parking dit du Préau-Pêcheur. Néanmoins, dans les cas que je viens de vous présenter, bien que les vestiges n'aient pas été conservés, il y a eu étude de ces vestiges. Il existe une variante de ce dernier cas de figure qui est quand même assez rare. C'est le cas où on suspecte d'importants vestiges archéologiques, mais où pour des raisons politiques, économiques, diverses et variées, on ne réalise ni sondage ni fouille. Ça a été le cas de l'hôpital Pasteur de Nice que je vous ai mis ici, sous lequel se trouve en fait la plus grande cité funéraire de la ville, qui est datée du Bas-Empire, qui est elle-même située autour d'une ancienne basilique réaménagée, restaurée en abbaye au 8e siècle sous l'impulsion de Charlemagne, qui se trouve enclavée. Voilà, vous avez ici la fameuse abbaye au milieu de l'hôpital. Alors certes, l'essentiel de l'hôpital a été construit à une période où l'archéologie n'avait pas les outils légaux pour se défendre. Cependant, la dernière extension de 81 000 m², qui est celle-ci et ce petit galet, date de 2016. Il n'y a pourtant pas eu de fouilles et c'est loin d'être terminé puisque le maire de Nice a annoncé il y a une semaine, 10 jours, que le ministère de la Santé allait contribuer au financement des travaux de l'hôpital Pasteur à hauteur de 257 millions, ce qui veut dire que les travaux vont reprendre bientôt dans toute la zone qui est devant l'ancienne basilique paléochrétienne. Mais dans la mesure où le département et Nice en particulier sont particulièrement engorgés au niveau hospitalier, je ne dirais pas qu'on ferme les yeux, mais on ne fait pas de diagnostic. Il y a eu quelques fouilles au début du siècle qui avaient mis en évidence des sarcophages, mais ça s'est arrêté là. Et c'est loin d'être le seul cas à Nice, puisque récemment, plusieurs inhumations sous Tégula ont disparu lors de la construction d'un immeuble à l'ouest de la cité antique, les ouvriers n'ayant pas osé les signaler, je cite, « par crainte de la colère des entrepreneurs ». Daniel Mouchot conclut d'ailleurs un de ses articles sur la nécropole de Cimiez par « l'espoir de voir d'autres lueurs compléter ses indications et soumis à la bonne volonté des entrepreneurs de construction » qui font de Cimiez un de leurs champs d'action favoris. Et il est vrai que la pression immobilière sur cette partie de Nice est quand même très importante. Et comme vous pouvez le voir, la balance entre créativité territoriale et archéologie, en dépit de poncifs assez répandus selon lesquels les vilains archéologues entravent le bon développement du territoire, penche plutôt vers les enjeux de l'attractivité territoriale. L'archéologie pèse bien peu face aux professionnels de la fabrique urbaine. Et ce, malgré l'engouement et la mobilisation de professionnels, de connaisseurs ou parfois de simples riverains comme les riverains qui ont voulu sauver l'ancien rempart de Saint-Laurent-du-Var, vous constaterez qu'ils ont tellement bien réussi que ça a été démoli. Malheureusement, non. Je veux dire, il est vrai que la créativité territoriale a pour but de répondre aux défis du développement des territoires, de l'emploi et de l'urbanisme. L'aspect culturel et surtout archéologique ne prévaut quasiment jamais dans le département sur les aspects archéologiques. L'aspect archéologique ne prévaut jamais sur les aspects liés à l'emploi et à l'urbanisme. Et je citerai d'ailleurs Dominique Garcia, qui est le président de l'INRAP. Nous ne cherchons pas à intervenir partout à tout prix. Nous ne voulons pas risquer une surcharge d'activité qui nuirait à l'égalité territoriale en matière d'analyse de données. C'est finalement cette égalité territoriale, cet équilibre entre archéologie et aménagement qu'essaye d'atteindre le département. Et il œuvre dans ce sens avec, par exemple, Aroubion, qui est une commune située à 1h30 de Nice, donc dans la RPI vraiment du département, un projet de création d'un parc archéologique sur un oppidum gaulois de l'âge du fer, donc récemment fouillé, avec une valorisation du site, avec notamment le creusement des fossés et la reconstruction des murs d'enceinte en pierre sèche, afin de rendre l'ensemble plus lisible que dans l'état actuel. À Nice également, le site de l'ancienne cathédrale, donc, qui est ici et qui est également connue depuis très longtemps, puisqu'il se trouve en plein centre de Nice, devrait également faire l'objet d'une mise en valeur, avec notamment des flashcodes qui permettraient d'accéder à des reconstitutions 3D. Cette valorisation du patrimoine archéologique est d'autant plus importante qu'il s'agit d'une région multiculturelle dans laquelle se côtoient non seulement des populations touristiques cosmopolites, mais surtout des populations résidentes issues de zones géographiques variées avec une histoire complexe et transfrontalière. Ces enjeux qui relèvent d'une responsabilité collective tant au niveau de la créativité des territoires que de l'archéologie relèvent également de la cohésion sociale et territoriale, d'où l'importance pour tous ces acteurs du patrimoine, qu'ils soient passés ou futurs, de communiquer. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Toujours pareil.
Bruno Dufay, oui, merci pour ce panorama qui, je pense, pourrait être reproduit pour tous les départements, je pense. Vous avez quand même oublié de mentionner que la ville de Nice, la métropole et le département sont dotés d'archéologues de collectivité, ce qui est quand même un effort que toute là, pour le coup, tous les départements et toutes les métropoles ne font pas.
Alors oui, c'est vrai, il y a un service archéologique pour la métropole qui s'occupe, qui est agréé justement pour les fouilles préventives et qui s'occupe également de fouilles programmées. Alors oui, c'est un effort. Après, pour avoir insuffisant dans la mesure où, très honnêtement, le responsable de ce service, qui est un archéologue du bâti, je vais faire simple, son credo, c'est on fouille mieux qu'hier et moins bien que demain. Et ça lui, c'est vrai, mais ça lui sert aussi d'excuse pour ne pas fouiller. Parce qu'il part du principe que dans 50 ans, nous aurons de meilleurs outils, sauf que dans 50 ans, la législation peut changer. Ce qui est protégé aujourd'hui ne le sera peut-être plus d'ici là.
Ça se discute.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est effectivement un enjeu des territoires et des archéologues. La plupart des professionnels sont des conservateurs du patrimoine. Et dans ce mot, il y a quand même, dans cette expression, il y a quand même la notion de conservation. Et de fait, si on peut faire autrement, il vaut mieux ne pas fouiller. Et pour une autre raison que vous avez citée par la phrase de Garcia, à savoir qu'on est déjà engorgé. Il n'y a pas que les CCE qui sont engorgés, mais nos cerveaux aussi, nos capacités d'analyse, d'écriture, etc., de publication, sont engorgés. Donc, effectivement, il faut quand même se poser à deux fois la question de savoir si aller à la fouille, c'est la meilleure idée. Après, et puis par ailleurs, en effet, dans 50 ans, on aura d'autres outils, d'autres problématiques. Donc là aussi, c'est une question de cas par cas. Si ça devient un alibi, ça je ne sais pas. Je ne ferai pas de procès d'intention à mon collègue que je ne connais pas suffisamment. Mais c'est une vraie problématique. L'autre problématique, on n'en a pas parlé, mais pour les territoires me paraît importante, c'est que pour que l'archéologie ait un sens pour les habitants, et donc pour les territoires, et donc pour les élus, il faut que ça se voit. Et vous l'avez d'ailleurs dit, les expériences qui marchent, c'est parce qu'il y a des monuments emblématiques qui se voient et qui se voient depuis très longtemps. L'archéologie préventive, la plupart du temps, produit des résultats qui sont peu compréhensibles au grand public et dont, le destin est de disparaître. Autrement dit, ça n'est pas du patrimoine parce qu'avant, on ne savait pas que ça existait et après, ça n'existe plus. Donc, ça n'a pas le temps d'être patrimonialisé. Et donc, du coup, on est dans un autre type d'enjeu et c'est normal que ce soit l'aménagement qui passe par-dessus puisqu'il n'y a pas d'appropriation possible, à part quelques exemples très rares, les carrières de Marseille, là où effectivement il s'est passé quelque chose de d'ailleurs difficile à comprendre parce que c'est vraiment une sorte d'unicum quand même aussi. Mais ça, c'est un des vrais problèmes de notre métier puisqu'on fait essentiellement maintenant de l'archéologie préventive et on est finalement hors champ du patrimoine alors qu'on dépend du ministère de la Culture et qu'on porte un discours patrimonial mais qui est largement du blabla hein, pour dire les choses clairement.
Alors oui, il y a du vrai dans ce que vous dites, par contre je ne suis pas d'accord. L'archéologie préventive produit du patrimoine dans la mesure où il s'agit quand même d'un héritage. Pas nécessairement. Il peut être mis en valeur.
Oui, mais à epsilon près. Il y a 1-2%.
Non, mais il est vrai que le résultat des fouilles est souvent pas conservable. Hein, dans la majorité des fouilles d'archéologie préventive, on peut difficilement envisager, même sur le moyen terme, de conserver un site. Et c'est pour ça que les carrières de Marseille sont effectivement problématiques, hein, puisque ce sont les archéologues qui ont dit « mais c'est pas la peine de conserver le tout, puisque de toute façon, ça va se dégrader très très vite. Il vaut mieux réduire la surface de conservation et faire en sorte justement de la consolider pour qu'elle puisse être pérenne. Donc il est vrai que si vous regardez les fouilles préventives où on reste, même pour ce qui est très spectaculaire, comme par exemple les mosaïques de Nîmes, hein, on pourrait très bien envisager de les laisser sur place et puis de les recouvrir par X mètres carrés de verre pour que les gens les voient. Mais objectivement, c'est économiquement inenvisageable. Et je ne suis pas sûre qu'en termes de patrimoine, ça soit même forcément une très bonne chose, parce qu'il faut quand même qu'on regarde un peu sur le long terme. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, ça s'abîme. Les choses s'abîment, ça coûte très cher d'entretenir des sites, même des sites antiques qui sont les plus solides quand même, ça coûte très très cher. Donc à un moment, c'est vrai que le choix de dire il vaut mieux effectivement enlever tout, quitte à le présenter ailleurs et puis présenter autrement le site, et aussi un gage finalement de survie de ce site. Hein. Ah mais c'est vrai que Nice, je vous trouve un peu sévère, puisque la crypte archéologique de Nice, c'est quand même une vraie réussite.
Oui, c'est une très très belle réussite. C'est, voilà, c'est un des seuls cas en France qui a su faire cohabiter à ce point l'archéologie et l'aménagement.
C'est quand même très, très parlant. Alors après, effectivement, est-ce qu'on en fait 3 km ou est-ce qu'on en fait 150 km? Je crois qu'à un moment, on ne peut pas être fétichiste non plus. Quoi. Je crois qu'il y a quand même un petit peu de ça. Il faut être raisonnable d'une certaine façon.
Non, je reconnais à Nice ses mérites. Je veux dire, c'est quand même 2000 m² qui ont été sauvegardés. Moi, ce que je déplore, c'est le cas où il n'y a pas d'études du tout.
Mais ça, je veux dire, c'est le rôle des SRA. Quelque part, c'est aussi c'est l'État qui impose qu'il y ait au moins un diagnostic. Donc, on ne peut même pas accuser la ville de Nice, que je ne défendrai pas plus avant. Hein, soyons clairs. Parce que les musées de la ville de Nice, c'est effectivement un vrai problème. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, c'est les services de l'État hein, qui sont responsables du choix ou pas d'aller à la fouille.
Une petite remarque, et vous enchaînez ensuite en ce moment.
Oui, c'est peut-être plus, tu pointais peut-être plus le regret qu'il n'y ait pas d'observation pour apporter à la connaissance de la ville de Nice et pas forcément une préservation ensuite. Mais c'est vrai
on peut
regretter qu'il n'y ait pas plus de fenêtres ouvertes, même momentanément, pour l'acquisition de connaissances. Mais ça, c'est vrai que là aussi, c'est encore des choix.
Bien, merci. Précisément, la transition est faite. Elisabeth Bertrand, vous pouvez venir à Estrade. Vous avez le droit. Yeah. Vous êtes autorisé. Je vous laisse le soin de vous présenter en même temps, avec vos casquettes différentes.
Donc Isabelle Bertrand, je suis responsable des musées, du service des musées et du patrimoine à la ville de Chauvigny. Également présidente de l'Association des archéologues du Poitou et des Charentes, en charge de l'animation d'un groupe européen qui travaille sur l'artisanat à l'époque romaine et qui publie un semestriel. De fait, un peu implanté dans le territoire archéologique de la région, ou du moins de l'ex-région. C'est un peu à ce titre que je suis là. Ensuite, on ne m'a pas demandé de préparer de publication, donc vous voulez que j'intervienne sur quel sujet ?
Parlez-nous de votre rapport au territoire, de la Chauvigny, de l'association régionale.
Oui, alors, la région Poitou-Charentes a une histoire archéologique qu'on peut calquer en partie sur celle que tu as montrée pour la ville de Nice, parce qu'il y a des périodes où c'est plus compliqué pour que l'archéologie trouve sa place, et puis il y a des périodes où elle a complètement trouvé sa place. C'est au gré des politiques nationales, des politiques territoriales, des acteurs locaux, etc. C'est au gré de la recherche et des moyens qu'elle a aussi. Une association comme l'Association des archéologues du Poitou et des Charentes a été créée il y a une quarantaine d'années pour être partenaire de ce qui était encore ce qui émergeait comme le service régional de l'archéologie, ce qui allait devenir le futur service régional de l'archéologie, pour favoriser les échanges, favoriser les rencontres. Et puis maintenant, on a aussi un rôle dans le tout simplement de porter les subventions allouées pour les responsables d'opérations. Et là, en revanche, ça concerne uniquement la partie fouille programmée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre de l'archéologie préventive, on est dans le cadre de fouilles déposées dans le cadre de programmes de recherche et qui visent à étudier des problématiques liées au territoire, sur toutes les périodes, sur des sites aussi bien du néolithique que sur des sites de la période moderne, que sur des données subaquatiques, etc. Donc en fait, cette association, elle a évolué, elle a accompagné, je dirais, l'archéologie en région, toujours, je parle de l'ex-région Poitou-Charentes. Aujourd'hui, elle doit, comme nous tous, presque les acteurs de l'archéologie, se repositionner dans un territoire qui a évolué, qui s'est considérablement agrandi, dans un contexte national aussi qui évolue, puisque l'archéologie s'est professionnalisée, ces 20 dernières années. Les acteurs sont plus nombreux, les formations se sont développées, donc il y a des étudiants qui sortent avec des masters au minimum d'archéologie, qui cherchent du travail dans tous le domaine, y compris dans le domaine du patrimoine. Et une association comme la nôtre, par exemple, se pose régulièrement des questions parce que c'est essayer de garder un lien entre tout ce monde-là qui gravite autour de la même problématique, les vestiges du passé, qui répond en partie avec une journée d'actualité. La prochaine sera le 28 avril à Angoulême. Qui répond aussi en publiant un bulletin tous les ans avec des données des archéologues, des travaux qui sont présentés généralement à la journée d'actualité. Et puis après, c'est essayer chacun des membres d'avoir des activités qui sont en lien avec d'autres structures. Les membres de cette association sont aussi bien universitaires, associations, loi 1901, personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales, étudiants, etc. Bon, je crois qu'en soi, ça n'a rien d'exceptionnel. Le lien qu'on a avec l'activité archéologique de terrain et le fait qu'on soit présent en tant que support n'est pas très courant néanmoins. Ça a eu ses vicissitudes, c'est-à-dire que voilà, mais on s'est adapté, c'est normal, ça évolue. Et je pense que l'archéologie, je le disais, on en parlait plutôt à table, il y a un réel rôle de l'archéologie dans les territoires, dans la mesure où aujourd'hui, l'archéologie, c'est un domaine multiscientifique, c'est un domaine de rencontre, c'est des intervenants professionnels, non professionnels, qui ont tous leurs bonnes raisons et des motivations certaines de mise en valeur des données. C'est aussi des administrations, c'est des professionnels qui de plus en plus se forment, etc. Et l'enjeu, c'est d'arriver à dialoguer tous ensemble. Alors parfois, c'est pas facile, mais on y arrive quand même. Peut-être que c'est un des domaines où on rencontre cette multiplicité, je ne sais pas si c'est le bon terme, des interlocuteurs, mais on représente une variété assez grande en fait, d'interlocuteurs, si on regarde bien. Et l'enjeu probablement des années à venir, c'est de continuer à travailler ensemble, en fait. Que ne se crée pas la grande différence qui peut-être a parfois commencé quand même à se faire entre le monde associatif et le monde professionnel. Je pense que ça, c'est sans cesse, on s'éloigne, on se retrouve, on se rééloigne, je pense. Moi, j'ai toujours dit à cheval entre les deux, alors j'ai pas l'impression de cette césure systématique, mais c'est probablement un peu personnel. Et voilà, mais à la question archéologie territoire, elle est évidente, comme tu le disais au tout début. Enfin, de fait, même notre sujet, c'est le territoire. On ne doit pas l'oublier. Et il y a un réel potentiel de mise en valeur pour le public et aussi d'enseignement, de connaissances, etc. Il y a une économie autour de l'archéologie qui est existante. Il faut qu'on la reconnaisse peut-être un peu plus.
Voilà. Peut-être deux questions pour prolonger votre présentation. La première, c'est par rapport à la nouvelle région, la nouvelle Aquitaine. Comment est-ce que vous voyez l'organisation à terme? Ou enfin, est-ce que l'association va devenir Nouvelle Aquitaine? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres associations dans les ex-régions qui étaient là avant?
Oui, ça se pose.
Et la deuxième chose, c'est vous parlez d'économie. Justement, c'était un peu la conclusion. Enfin, la dernière question que je vous ai posée de façon un peu provocatrice, si j'ose dire, lors de la vidéo, c'est en quoi est-ce que ça a un lien avec l'économie, puisque vous savez que la Nouvelle-Aquitaine est les fonctions. Une des attributions des régions, c'est le développement économique. Comment vous voyez les choses par rapport à l'aune de cette dimension-là?
Alors, moi, je saurais prétendre pouvoir répondre à ces questions-là, parce que mon expérience est peut-être un peu trop tournée aussi autour d'un territoire trop restreint, là, peut-être. Mais en ce qui concerne la question des autres associations, oui, il existe une association en Limousin. Je crois qu'il y a une association plus ciblée autour de la préhistoire en Gironde, ou plus dans la partie sud de l'Aquitaine. Mais,
il y a plusieurs associations.
Voilà, il y a plusieurs associations. Toutes n'ont pas forcément, je dirais, la même type d'action, le même organiser des journées de rencontres, etc. Notre objectif n'est pas de devenir à l'échelle de la grande région, parce que ça ne serait pas gérable. Hein. On est tous, là du coup, on est tous sur notre temps personnel, ou du moins en partie sur le temps personnel dans ces activités, donc ça a ses limites aussi. En revanche, d'avoir des échanges avec les autres associations, oui, ça c'est envisagé. Pour l'instant, ce n'est pas amorcé, ou alors enfin, individuellement peut-être, mais voilà.
C'est un vrai problème parce que la force de ces associations, c'est justement d'avoir un vrai territoire et de permettre à des gens d'horizons différents de se sentir chez eux, en particulier lors des journées annuelles. Et élargir le territoire, ça anonymise un petit peu trop les choses. Et du coup, je suis pas sûre que ça restreigne pas le rôle de ces associations à un rôle plus institutionnel et beaucoup moins de lieux informels de rencontres où tout le monde se sent bien. Enfin, moi, c'est longtemps que j'y suis pas allée, mais pendant longtemps, je suis allée aux réunions de la APC. Et c'est vrai qu'on voit toutes sortes de gens et que tous ces gens-là se sentent chez eux. Donc il ne faudrait pas réduire ces associations simplement, même si effectivement égoïstement ça nous sert bien à nous archéologues, à des associations support de subventions pour gérer des contrats. Quoi.
Oui, c'est un des enjeux.
C'est important cette réflexion que vous nous faites là, parce qu'en fait elle est valable dans beaucoup d'autres domaines. Je vais prendre un exemple, les mini-entreprises, c'est un dispositif qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, auquel on est très attaché aussi. Ce dispositif a une raison d'exister à l'échelle des trois régions. Le regrouper dans un grand regroupement régional qui va de Mauléon à Loudun, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, et en ce qui concerne l'archéologie comme, on va dire, vecteur de développement économique, etc. Aujourd'hui, l'archéologie, c'est une activité économique. La preuve, c'est que c'est un marché pour l'archéologie préventive. La phase de fouille préventive est un marché avec des intervenants différents qui, chacun, répondent à des appels et font des réalisations. Il y a aussi les universités qui forment à l'archéologie. Il y a des services du patrimoine qui existent. Il y a des actions envers les publics, il y a des mises en valeur de sites, il y a une économie du tourisme qui se met en place derrière. Donc on peut difficilement dire que l'archéologie n'a pas de lien avec l'économie d'un territoire. En revanche, c'est illusoire de croire que la mise en valeur d'un site suffira à faire vivre, sauf peut-être dans les cas exceptionnels de Lascaux, etc., où leur retombée économique est telle supérieure aux moyens financiers mis au total, je n'en sais rien. Mais c'est une participation à une dynamique, à mon sens, qui n'est quand même pas négligeable, même si c'est un domaine qui vit ses difficultés économiques comme tout autre aujourd'hui, parce que rien n'est simple en termes d'activité professionnelle.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Bruno Dufailly, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Je pense que les archéologues, on est, pour prolonger la dimension économique et le mot tourisme qui est apparu très tardivement dans cet après-midi, je pense qu'on a un rôle à jouer qui est de donner du sens, une signification la plus intelligente, la plus proche de la vérité possible à ces lieux touristiques qui, sinon, vont glisser tout doucement vers la désirlandisation. On est là pour, quand on peut, quand on a des tutelles, justement, qui comprennent ça, pour donner de la qualité au message porté envers les publics touristiques. Et ça, je pense que ça vaut pour les châteaux forts comme les thermes de Cimiez ou autres. Et ça, c'est vrai que c'est du qualitatif. Est-ce que c'est parce qu'on aura une muséographie qui aura tenu compte des dernières découvertes archéologiques qu'il y aura plus de visiteurs ? C'est impossible à mesurer, je le crains. On le dit parce que c'est une auto-justification, mais je pense que c'est vrai parce qu'il faut qu'on... Il faut absolument qu'on arrive à éviter de n'être que dans une logique comptable et que donc le qualitatif doit avoir aussi sa place. Et si nous, on n'est pas là pour le porter, mais à condition qu'on sache faire les passerelles. Et c'est pour ça que l'exemple de Blois, par exemple, est tout à fait pertinent et salutaire. Moi, je fais aussi ce travail-là parfois avec des collègues 3D, d'où mes questions de tout à l'heure. Mais c'est le même type de dialogue que j'ai avec des infographistes que vous avez pu avoir avec les collègues archéologues. Donc nous, il faut qu'on soit les passeurs. Il faut qu'on accepte de regarder en dehors de notre nombril et de jargonner. Mais il faut aussi qu'on soit conscient et qu'on le dise, qu'on apporte une vraie qualité, une vraie plus-value aux visites touristiques des monuments et donc du territoire.
Et un des autres enjeux, c'est de convaincre les responsables politiques et administratifs des territoires de cette qualité et de ce plus apporté. Et parfois, ce discours-là est difficile à faire entendre dans des territoires où on a privilégié d'autres centres d'attractivité. Je pense que la Vienne est un bon exemple en ce sens. Le discours archéologique doit être sans cesse un petit peu apporté sur le terrain, même s'il y a un réel engouement quand Poitiers développe son application Poitiers 3D. On sent qu'il y a un réel intérêt à ce que ressurgissent des vestiges disparus ou enfouis pour le tourisme. Néanmoins, ça demande d'être pérennisé. Voilà, à mon sens, par exemple, à l'échelle de notre territoire proche.
D'autres questions ?
Oui, moi je me demande si on n'a pas, dans ce débat cet après-midi, accordé beaucoup d'intérêt, et à juste titre, au corporate, c'est-à-dire au métier d'archéologue et à son développement et aux bonnes conditions de son développement, et assez peu finalement au territoire, alors à travers une entrée qui serait celle du tourisme, par exemple. Et si finalement on ne passe pas à côté d'un autre sujet qui en matière de développement touristique se pose, et quelqu'un l'a évoqué à propos du Futuroscope, enfin à propos des choix touristiques du département de la Vienne. Au fond, entre Disneyland, Futuroscope et de grands centres muséographiques qui concentrent des découvertes, des mobiliers, du matériel regroupé sur de grandes surfaces, au fond, avoir des pôles d'attraction touristique tournés vers le passé, avec éventuellement des reconstitutions vivantes, du 3D, etc., etc. C'est un peu le modèle Lascaux à certains égards. Et la question que nous nous posons, c'est de dire, est-ce que dans les territoires eux-mêmes, c'est-à-dire point par point, presque partout, est-ce qu'il n'y a pas finalement des sujets, des polarisations d'intérêt du public ou de la population en termes touristiques, qui puissent être dispersés de petite taille, bien conçus, et permettre une certaine porosité entre le passé tel que les archéologues le dévoilent, et puis le présent tel que les citoyens le vivent dans ce pays. Parce que quelque part, l'archéologie est un des chapitres de découverte, des moyens de découverte du passé. Elle appelle un investissement des collectivités qui n'est pas négligeable. Donc quelque part, un consentement des citoyens qui n'est pas gratuit. Et on a l'impression, quand on parle d'archéologie souvent, que la curiosité du public est non pas tellement sur l'intérêt des sujets évoqués que sur le coût et le poids des chantiers que ça peut représenter. Alors on parlait de l'archéologie préventive, c'est vrai qu'il y a à cet égard, mais on sait que c'est faux. Mais il y a à cet égard une tradition qui consiste à dire c'est coûteux, c'est lourd, c'est long, etc. On sait que c'est faux. Mais ces réactions-là, relisez dans les articles de presse tout ce qui est commentaires de type Twitter ou autres qui viennent derrière, le public réagit dans ce sens-là. Et je me dis que quelque part, l'archéologue doit être aussi un médiateur. Il doit travailler à mettre au jour, à conserver, à déposer, à classer, etc. Mais il doit travailler aussi à divulguer. Et divulguer, c'est pas nécessairement auprès de grosses institutions, de gros pôles de déploiement touristique. Alors nous, on appelle à notre échelle, on a fait un petit travail associatif, il y en a d'autres ailleurs, mais on devrait peut-être s'intéresser davantage à cette dispersion de l'échange entre historiens, archéologues, voire autres disciplines sur l'histoire de l'homme, et le public là où il est, pas seulement des touristes américains.
Je ne sais pas si M. Aiguillon veut témoigner sur la liaison avec le Center Park, par exemple, mais je lui laisse le soin de réagir. Oui. Non, mais l'implantation du Center Park dans le Loup du Nez, enfin, comment est-ce que vous vivez ça par rapport à cette question ?
Non, je ne parlerai pas trop du Center Park, même si ça se situe dans notre territoire, effectivement. Ça, je crois que moi, j'y peux rien, pas grand-chose, en tout cas. Mais en tout cas, ça tombe pas mal, parce que j'ai commencé il y a 30 ans comme animateur tourisme, plutôt. Et puis, je suis depuis 20 ans, maintenant, plutôt animateur patrimoine d'une collectivité, justement, où on travaille sur la mise en valeur d'un patrimoine mégalithique très important, et qui a pu se faire, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, sur le fait que l'archéologue qui justement pilote le projet collectif de recherche sur un territoire plus vaste qui va de la Charente au Nord-Poitou, et qui est Vincent Haar, est justement passionné du partage, de la vulgarisation, de la médiation, et aussi s'appuie, il faut bien le dire, sur des collectivités qui ont donné les moyens à leurs animateurs, dont je fais partie, d'accompagner en fait ces opérations archéologiques. Donc ça débouche sur des choses extraordinaires, je dirais, en termes de médiation, parce qu'on n'est pas les seuls. On a d'abord la science qui est là pour nous apporter des éléments de langage, le fond finalement qui va constituer la base de nos mises en valeur. Et c'est ce point de rencontre en fait entre des publics très différents, pas forcément des associations. Mais mon rôle, c'est aussi de faire participer à ces projets les gens du pays, qu'ils soient dessinateurs, bénévoles, maquettistes, topographes, géomètres, qui sont tous au service des archéologues, et en fait tous ensemble on fait des tables rondes, on se voit régulièrement, et ça permet de déboucher sur des mises en valeur très populaires souvent, qui sont vraiment dans l'axe, le cœur de notre métier finalement, c'est d'intéresser le grand public, donc par le biais d'animations autour du musée de Loudun, avec des sorties vers les écoles, impliquer les écoles sur les chantiers de fouilles, les habitants, des fêtes populaires où on fait de l'expérimentation également avec des archéologues qui travaillent sur, je sais pas, une conception de pirogue, une élévation de menhir, etc., etc. Donc effectivement, là, on se trouve aux confins de la science, de la médiation, de la mise en valeur touristique, mais pas Disneylandisation, comme vous dites, mais plutôt une mise en valeur touristique qui s'appuie sur de la qualité, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on se rend compte, on a déjà 2 années de mise en place d'animation grand public, et on s'est rendu compte qu'entre la première que l'on a faite, où il y a eu finalement une promotion assez modeste, on a eu plus de 1000 personnes dans un petit village de 200 habitants, parce qu'on a fait plein d'ateliers populaires, on a fait du spectaculaire en élevant un menhir, en choisissant la pierre depuis des mois en amont avec les associations, la population, etc. Et on a eu plus de 1000 personnes, alors que cette année on a fait plutôt quelque chose de qualitatif basé sur des conférences, des expositions bien faites, mais avec une belle promotion, et finalement on a eu 250 personnes. Donc ça montre que, moi je dis pas que c'est moins bien, parce qu'il faut aussi, je pense, ces moments de conférences de qualité qui nous apporte un plus scientifique et vraiment un fond finalement sur lequel on peut s'appuyer, et puis ces ateliers, ces démonstrations, cette expérimentation qui est plus effectivement là un produit d'appel, on va dire entre guillemets, pour les gens de la base. Donc voilà, je pourrais en parler très longuement, mais il y a plein d'expériences comme ça à l'échelle du pays de Loudun, du pays de Thouars, parce que ce qui est important aussi, c'est que dans le cadre de ce PCR, on s'est associé à plusieurs territoires néolithiques avec des conventions, des partenariats conventionnés avec les élus qui nous donnent les moyens de travailler ensemble, d'échanger des expériences et finalement de ne pas être forcément redondant dans les mises en valeur que l'on fait à l'échelle de toute une région. Donc chacun a sa spécificité, son identité, les animateurs ne sont pas les mêmes, portent les projets différemment. Donc finalement, c'est ces rencontres qui sont passionnantes finalement. Et c'est, je pense, ce que vous mettiez en avant, monsieur, à l'instant, en parlant de justement tous ces pôles éclatés qui permettent d'avoir des qualités de mise en valeur dans les différents territoires. Et je m'arrête là, sans parler du Center Parks.
Merci pour le témoignage. Le Center Parks, c'était une petite provocation. Hein.
Mais ce qui se fait justement à Loudun est le parfait exemple que c'est donc possible, ce travail ensemble d'associations, de chercheurs, de collectivités, et que cela se fait. Et services de l'État. Et que cela se fait.
Voilà, mais le fait que les archéologues, qu'ils soient des archéologues de terrain, qu'ils soient des archéologues de musée, je dirais, la médiation, tout le monde en fait. Hein. De ce côté-là, c'est quand même, je dirais, une évolution des 15 dernières années. Hein. Mais c'est vrai que la part de médiation à tout point de vue, hein, que ce soit la télévision ou la petite conférence où il y a 15 personnes, je veux dire, tous les archéologues, quel que soit leur statut, le font. Il ne faut pas se leurrer, l'archéologie ça coûte, hein, mais ça coûte comme tout. Après, il faut savoir si on préfère un rond-point inutile ou bien une fouille archéologique. Hein. Donc ça coûte, mais après c'est des choix, et c'est des choix qui sont politiques. Hein. Je dirais que ce que ne savent pas faire les politiques, c'est globaliser le coût et la rentabilité entre guillemets, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, une fouille ou un musée, ça coûte temps entre le chauffage, l'électricité, le personnel, la pelleteuse, etc. Et n'est pas pris en compte à côté le fait qu'il y a des visiteurs et puis qui vont aller manger au restaurant du coin ou qui vont aller éventuellement dormir à l'hôtel, qu'ils vont acheter, etc. Généralement, il y a deux... tout ça, c'est sectionné, et ça permet de mettre en valeur le coût des choses. Mais surtout, je pense que le plus dur pour nous, c'est de durer. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, entre une année à 1000 personnes et une année à 250 personnes, c'est pas forcément la qualité ou la nature de ce qui est proposé, c'est le fait de, à la fois de la nouveauté qui attire, de l'enthousiasme qu'on peut avoir pendant 3, 4, 5, 10 ans, puis après on a autre chose à faire par obligation ou par choix, et le plus difficile, c'est vraiment de tenir sur la longueur. Donc je crois qu'il faut accepter maintenant de monter des opérations pour intégrer les populations locales en se disant c'est un coût à 5 ans. Je crois qu'on n'est plus dans le cas des associations de bénévoles du 19e siècle où les gens y passaient 40 ans de leur vie à effectivement s'occuper du patrimoine local en plus de leur travail salarié. Et avec cette longueur de temps, je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile.
Tout à fait. Sur l'engagement associatif et citoyen, c'est clair. Vous avez tout à fait raison. On va peut-être, à moins qu'il y ait des questions, hein, je ne vais pas les censurer, mais peut-être donner la parole maintenant pour terminer à Anne-Sophie Martineau. J'avoue que je ne connaissais pas EVA, donc j'ai découvert, je n'étant pas un spécialiste de l'archéologie, donc peut-être quelques éclairages sur cette société ou agence, je ne sais pas comment on peut la baptiser.
Bonjour, donc Anne-Sophie Martineau, je suis archéo-anthropologue. Donc je suis en effet employée par une société qui s'appelle EVA et qui est un des opérateurs d'archéologie préventive actuelle. Nous pourrons en discuter plus si vous le souhaitez, mais à l'occasion de questions, je n'ai pas spécialement prévu de vous en parler. Ça ne me semblait pas spécialement le cadre. Petit souci de présentation. C'est qu'il n'est pas en... Non, je veux juste l'ouvrir.
C'est quoi, c'est un PDF ?
Ouais. Je fonctionne sous Linux depuis une dizaine d'années, ce qui fait que je suis complètement paumée. Ok. Les joies de la compatibilité informatique. Ok, donc je ne sais pas ce qui vous manquera. Nous verrons. Donc bonjour. D'abord, je tiens à vous préciser que je suis venue ici par curiosité, que je ne savais pas à quoi m'attendre et que je ne savais pas non plus spécialement ce que vous attendiez de moi et ce que vous souhaitiez que je vous présente. J'ai donc décidé de partir sur la question de, finalement, donc, en quoi l'archéologie préventive, donc, qui est le domaine professionnel où j'œuvre au quotidien, pourrait être source d'innovation pour le territoire, voire pour les territoires. Donc ma réflexion... Premièrement, m'a amené à me poser la question de savoir ce que c'était que l'innovation, de façon très générale et très large. Et donc, j'en suis arrivée à trouver une définition qui est que l'innovation, c'est l'action d'innover, c'est-à-dire d'introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, de coutumes, de croyances et de systèmes scientifiques. Ce en quoi je vois parfaitement où s'inscrit notre action, qui est donc au quotidien de mettre au jour des vestiges et donc de mettre à disposition de nouvelles données. La deuxième partie de cette définition, c'est que l'innovation se distingue de l'invention ou de la découverte par son caractère opérationnel et sa mise en œuvre concrète, qui pour moi semble tout de suite plus compliquée dans le cadre de l'archéologie préventive, ce qui m'amène à vous proposer de voir ce que nous produisons en termes de données immatériel. On a beaucoup parlé de patrimoine, mais la réalité pour moi, c'est que l'archéologie préventive actuelle produit certes des artefacts qui, a priori, peuvent être présentés en musée, mais qui produit surtout beaucoup de données scientifiques immatérielles qui sont présentées au public de manière beaucoup moins opérationnelle que ce serait souhaité. Donc, première présentation sur un site à Châtellerault, où ici vous avez un scan 3D qui a permis d'établir un plan, un autre scan 3D de la charpente qui là aussi a permis d'établir un plan, et l'ensemble de ces données nous permet de tenter de restituer quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire une charpente comme elle a pu l'être dans son état premier, qui n'existait plus. Donc nous, les données qu'on va pouvoir... ce qu'on produit au quotidien, c'est des données scientifiques et pas des choses matérielles qui peuvent être présentées. De la même façon, donc moi, mon travail, c'est vraiment l'archéoanthropologie, donc la fouille des sépultures, la lecture des restes dans le but notamment de lire des choses immatérielles comme les contenants périssables qui auraient disparu et les vestiges textiles qui auraient disparu. Donc ça, c'est la documentation classique. Donc il y a tout ce qui est relevé papier, prise de notes, altitude, lecture taphonomique, etc. La photographie, avec notamment des photographies, vous voyez sur la photo centrale, vous le voyez très peu, mais des petites croix qui nous permettent de prendre des données topographiques. Et ce que je voulais vous présenter, mais qui n'est pas fonctionnel ici, qui est donc aller jusqu'à la restitution. Donc jusqu'à la restitution de choses qui vont être plus lisibles pour tout un chacun, c'est-à-dire des restitutions 3D, par exemple, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent être de grande valeur scientifique, mais également très visuelles pour le public. Sauf que derrière, ça, ce n'est pas des choses qu'on a exploitées d'un point de vue public. C'est une donnée scientifique qui reste purement scientifique, qui à aucun moment n'a été utilisée dans un cadre de valorisation. Je fais donc partie d'une société dont ce n'est pas le corps de métier de faire de la médiation et de la valorisation, mais qui a un service de médiation qui est constitué actuellement d'une personne, mais qui permet d'avoir quand même un certain nombre d'outils pour diffuser des informations vers le grand public et donc pour inscrire les sites que l'on fouille dans le territoire, avec des visites sur site et des journées portes ouvertes, des expositions qui n'existent que s'il y a une commande de l'aménageur qui est à l'origine de la fouille, des visites de scolaires, on en parlait tout à l'heure, il y a également ce genre de choses, mais c'est pareil, ça se fait parce qu'il y a une initiative, une demande qui vient vers nous, et également des documentations, des participations à des documentaires, voilà, pas mal de choses qui sont dans ce cadre-là. Il y a également de la documentation qui est produite à destination du grand public, notamment sur les différents métiers de l'archéologie qui sont présents chez nous, mais également sur les sites. Donc, par exemple, l'archéoanthropologue, une fiche PDF sur... la réalité de nos métiers, de nos outils, etc. Des fiches de sites qui vont présenter les différentes découvertes qui vont être produites en général dès la fouille et distribuées potentiellement pendant des portes ouvertes. Voilà, donc il y a énormément de choses, mais qui derrière ne sont pas obligatoirement... Enfin, ces choses-là, ce n'est pas du systématique. C'est vraiment quelque chose, on aimerait que ce soit systématique, mais ça n'est fait que s'il y a une demande localement pour ces outils-là. Je voulais aussi vous montrer, donc, une petite médiathèque également sur ce site, avec notamment des reconstitutions 3D, donc d'objets, mais également de sites. Je voulais vous montrer, le site de la place de la République que certains connaissent, qui permettent donc d'avoir la vision d'une fouille qui, pour le coup, n'est pas une fouille qui est amenée à disparaître, ce qui est la majorité des cas en archéologie préventive. Celle-ci, elle est destinée à être valorisée par un musée de site de nature encore indéterminée. C'est encore en discussion avec... la ville de Limoges, mais qui a permis notamment de documenter, vous voyez, des petits bouts du cimetière médiéval attenant du bâtiment et l'ensemble du site. Voilà, que vous dire d'autre ? Voilà, donc j'en arrive. Donc également, dans certains cas, de la valorisation de sites, pareil, sur commande de municipalités où il y a une fouille. Et voilà, donc on arrive à produire ce genre d'outils, mais chez nous, c'est quand même pas la majorité du temps. Donc, la réalité de l'archéologie préventive, c'est qu'on produit énormément de données, qu'on sort énormément de vestiges, que leur valorisation, elle demande un temps qui n'est pas le nôtre, mais nous, on a ces données-là. On a des limites de temps pour ces chantiers, on a des limites de temps pour les post-fouilles, donc on a aussi des difficultés à produire des choses qui sont autres que le rapport qui est destiné à un public spécialiste. On a des problèmes de financement, puisqu'il n'y a pas, dans notre cas, hein, je précise, on n'a pas de moyens qui sont dédiés à la diffusion de ces informations vers le grand public, sauf si c'est une demande de l'aménageur. Et on a des réalités territoriales variables en fonction de l'implantation du site et en fonction des différents chantiers. Donc, moi, mon envie, en tout cas, par rapport à toutes les données qui sont sorties de ces sites, c'est de savoir comment on pourrait fonctionner avec les autres acteurs, avec les associations, avec les musées, pour diffuser au mieux toutes ces informations qu'on sort, sachant que ça ne fait pas partie de notre quotidien, de notre réalité quotidienne. Voilà, j'espère que vous aurez des questions, parce que je m'avoue que je m'attendais surtout à une table ronde de questions.
Eh bien, écoutez, on va voir. On va laisser venir les questions. En tous les cas, merci pour la présentation, quand même, en quelques mots, de Ever. Ça permet de mieux situer un peu les choses. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Quand vous dites sur commande, ça veut dire aussi financement ?
Nous n'avons de financement que ce qui nous est rémunéré par les aménageurs, qui sont nos interlocuteurs directs. Oui.
En fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est que EVA, c'est un opérateur privé.
Tout à fait. Voilà. C'est...
Donc, en fait, l'opérateur privé doit vivre effectivement du produit de ce que paye l'aménageur pour la réalisation des fouilles. Et c'est le cas de tous les aménageurs, tous les opérateurs privés. Et aujourd'hui, seul l'INRAP a une mission de service public qui comprend la médiation et la recherche et qui fonctionne donc sur des subventions de l'État. Donc c'est vraiment la différence de mission. Et pour le coup, EVA, qui est aujourd'hui en grande difficulté quand même,
Oui, tout
comme,
à fait.
Comme beaucoup d'opérateurs privés. Alors après, la discussion de savoir si l'archéologie doit être concurrentielle ou pas, c'est une autre discussion. Mais c'est vrai que la différence entre les opérateurs privés et l'opérateur unique public qui est l'INRAP est une différence finalement de mission. Et donc, effectivement, après, de financement pour un certain nombre de missions.
En termes de... Alors, je suis d'accord sur le côté... c'est une différence de financement, mais après, de mission, je pense que c'est une mission qu'on s'est, en tout cas, auto-attribuée, oui. Parce qu'on ne fait pas cette discipline. On n'officie pas en archéologie si on n'a pas, à un moment, l'intention de faire profiter ses savoirs à d'autres, à mon avis. Après, c'est du coup, en effet, très souvent des missions qu'on effectue à titre bénévole en dehors de nos heures de travail. Mais je pense que c'est le cas également pour beaucoup dans le service public.
Oui, ça de ce côté. Et c'est le cas pour d'autres opérateurs privés aussi, hein, que ce soit Archéo Dunum. Enfin, je veux dire, les opérateurs privés ont effectivement soit des revues, soit des sites internet, soit les deux. Donc il y a un véritable effort. Parce que globalement, tous ces gens-là, qui soient dans des structures privées ou qui soient à l'INRAP, c'est des gens qui sortent du même moule. Hein. C'est tous des archéologues qui ont été formés de la même façon par les mêmes personnes. Et après, c'est les aléas, effectivement, de trouver un poste. Hein. Donc, il y a une mise en concurrence de la pratique de l'archéologie et se grève là-dessus une mission de service public qui est confiée à un opérateur public.
Ok, merci pour ces précisions. Oui.
C'est des questions d'éclaircissement, s'il vous plaît. Vous avez bien résumé, Madame Le Boutin, le paysage. Ma question, c'est de dire, quand vous faites pour une collectivité ou pour un aménageur un chantier de fouilles tel que celui-là ou d'archéologie préventive, vous récoltez un certain nombre de données, vous en sortez des documents en 2D ou en 3D, enfin, d'une manière générale, quel va être le surcoût qui consisterait à produire un document abordable par le public. En d'autres termes, vous faites ce document-là en termes de rapport scientifique pour que les partenaires puissent juger ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire, ou pour établir ce qu'ensuite on va recouvrir ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que vous récoltez beaucoup de données et que finalement il s'agit ensuite de choisir dans ces données ce qui est sensible pour le public et éventuellement d'en faire un document avec la permission, au moins, sinon le financement, de l'aménageur ou de la collectivité. Est-ce que ma question est idiote ou est-ce qu'elle a un sens ?
Je ne sais pas si elle a un sens. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, notre métier, c'est de récolter des données factuelles, d'essayer de les interpréter à l'aune de nos disciplines et de nos différentes spécialités en équipe, afin de comprendre un site et de l'inscrire dans un contexte territorial notamment. La question de savoir ce qu'on doit diffuser au public, elle ne se pose pas, puisque c'est pas des choses... Notre métier, c'est pas ça, c'est de produire et d'argumenter nos découvertes et nos interprétations scientifiques. Les diffuser derrière vers un public, c'est une autre réflexion. C'est une réflexion qui demande donc de repasser à des prismes de simplification et de compréhension qui sont tout à fait intéressants, mais qui demandent un temps qui ne nous est pas attribué. On a déjà de grosses difficultés à mener nos travaux scientifiques dans les temps qui nous sont impartis. Ce qui fait que c'est quasiment impossible de proposer à la fin d'un chantier, vu qu'en général on est déjà reparti sur le chantier suivant, un document de synthèse en plus du rapport qu'on vient de finir pour pouvoir le diffuser. Et le diffuser à qui et dans quel cadre et avec quel financement? De toute façon, c'est des questions qui ne se posent finalement pas puisqu'il n'existe pas derrière, de toute façon, de voie de diffusion de ces choses-là. L'aménageur, souvent c'est des grands aménageurs, sauf s'il a un désir de publicité, soyons, le terme est approprié, il n'y aura pas ces volontés-là.
Oui, alors j'ai dans la main un document qui a été réalisé sur la ligne LGV dans le département de la Charente.
Énorme aménageur.
Voilà, qui lui a prévu, non pas de publier ce type de document, mais de donner à quelques acteurs plus ou moins bénévoles, enfin il les a rémunérés, la possibilité de filtrer dans les déchets de fouilles, ce qui pouvait être en matière de fossiles intéressant et d'en faire une publication. Alors, je ne veux pas dire que LGV a payé la publication encore une fois,
mais LGV a permis que ce soit fait.
Et si j'ai bien compris, d'après ce que disent les entreprises du BTP qui ont travaillé sur ce secteur-là, le surcoût pour l'aménageur était mineur.
Oui, mais c'est un choix de l'aménageur, cependant.
C'est vrai, un choix de l'aménageur induit peut-être par la puissance publique qui avait procuré l'initiative de ces marchés, etc. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que techniquement ou financièrement, il y a un surcoût important par rapport au coût initial de
collecte ? Je ne suis pas capable de vous parler de coût. Moi, je vous avoue, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne en coût, je fonctionne en valeur scientifique.
Ça dépend de ce que vous réalisez, c'est toujours pareil. Hein. Pour la ligne Tours-Bordeaux, par exemple, il y a eu une exposition qui a été organisée. C'est effectivement Vinci qui a mis un peu à la poche, c'est les collectivités. Les lieux où seront présentées les expositions, c'est les collectivités qui prennent en charge le coût de l'exposition. Donc après, tout dépend ce que vous arrivez à à faire financer, et ça peut être un seul partenaire ou ça peut être plusieurs partenaires. Donc là, il n'y a pas de. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au coût de la fouille, et pas seulement au coût de la fouille, que par rapport au coût de l'aménagement, c'est effectivement dérisoire, mais ça n'a rien d'obligatoire. Donc après, c'est la sensibilité de l'aménageur.
Non. Personnellement, je ne suis en aucun cas en mesure de vous parler de coûts.
Non, c'est pas comme ça qu'on réalise. On dit, vous avez 70 000 ou 150 000 euros pour faire une exposition. Maintenant, vous débrouillez. Et donc, vous faites votre exposition en fonction du budget que vous avez. Vous ferez un catalogue de 40 pages ou de 150 pages avec des photos couleurs ou pas de photos couleurs. Vous ferez appel à un architecte ou un muséographe fort cher ou vous ferez tout seul. Tout ça. Après, il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille, non. Moi, je peux vous dire qu'une exposition, ça coûte entre 20 000 et 1 million d'euros. Voilà. Pas une exposition d'archéologie. Hein.
Une question un peu naïve. Je voulais juste savoir l'accès à ces fonds documentaires créés, parce que quand c'est du public, c'est public, mais quand c'est privé, comment ça se passe?
Ok, là par contre c'est une question auxquelles je peux parfaitement répondre. Donc nos rapports sont rendus, donc en général, quand une prescription de fouille est émise et que le chantier commence, il y a une période de 18 mois à 24 mois pour rendre nos... Enfin non, quand le chantier est fini, pardon, il y a une période de 18 à 24 mois derrière pour finaliser nos rapports scientifiques et les rendre. Après cette période, les rapports sont à disposition dans les services régionaux de l'archéologie où on les rend en plusieurs exemplaires et il y en a toujours à disposition du public. Toute personne intéressée a accès à ces rapports.
C'est comme c'est de la documentation administrative, hein, avec toutes les règles que ça comporte. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de piller les rapports archéologiques pour publier sous votre nom les découvertes. Hein. Mais disons que la consultation de ces documents, elle est ouverte à tout le monde. L'utilisation, après, elle implique effectivement de se mettre en rapport avec avec les auteurs, avec les responsables de ce qui est dans les documents.
Et au-delà de ça, depuis 2 ou 3 ans, je crois, EVA a fait le choix aussi d'essayer de les diffuser de manière plus simple, en PDF, le site internet dont je vous ai montré une partie, possède aussi un raccourci qui mène à une bibliothèque virtuelle où les responsables d'opérations qui ont accepté ont également posé leur rapport. Ils n'y sont pas tous, mais une grande partie y est. Ben non, ça fait pas partie de... C'est quelque chose qui serait formidable, mais on n'a pas...
Pardon. Oui, je pense que pour revenir sur la question de monsieur, c'est pas aux aménageurs, sauf anecdotiquement, à réfléchir à s'ils doivent mettre 1%, 2%, 5%, 0,5%. On n'est pas dans le même temps. Là, on parle d'une politique culturelle. Ça a été dit un peu, mais c'est pas à la sortie d'un chantier qu'on peut faire une publication pertinente, une exposition, une synthèse. Ça demande du temps, ça demande de comparer avec d'autres chantiers, d'autres fouilles. C'est une digestion, en fait, qui n'est pas dans le même temps. Et je voudrais compléter le paysage qui a été brossé par mes deux collègues pour rappeler quand même que les collectivités territoriales, les départements et un certain nombre de villes et de métropoles, un nombre non négligeable sont dotés de services d'archéologie. Et que là, justement, on peut marier l'archéologie préventive, l'archéologie programmée, la médiation, avec un pied dans le tourisme, un pied dans l'ingénierie territoriale, et que quand ça marche bien, ça, c'est une réponse efficace à la question. Après, il ne faut pas rêver. La pression de l'aménagement, elle est aussi forte sur nous. Et donc, la part des budgets qui est dédiée à la médiation, à la diffusion, elle est insuffisante. Quand on a la chance d'avoir la collectivité porte un musée d'archéologie ou d'histoire ça se fait mieux, plus facilement que quand ça n'est pas le cas, etc. Mais je pense que là, on est dans des choses qui sont des politiques publiques, des politiques de l'État, des politiques des collectivités. On n'est pas dans le territoire de l'aménageur. Et donc, effectivement, à part quelques exceptions de très grosses opérations, comme la LGV, et encore les publications dignes de ce nom de la LGV, elles sont en train d'accoucher péniblement et avec des financements absolument pas dus à l'aménageur.
D'ailleurs, j'avais eu en contact, mais ils ne pouvaient pas venir, je pense que vous les connaissez bien sûr, l'Association nationale des archéologues de territoire. Il y a une
sorte... Voilà. Oui, Bruno connaît bien.
Ben voilà, parfait. Parce que j'avais eu quelqu'un au siège qui m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Donc vous êtes...
Oui, effectivement, on ne s'est pas présenté. Donc moi, je suis administrateur de ladite association. Vous nous aviez contacté un peu tard, ce qui fait qu'on a fait le tour des popotes et personne n'a eu le courage ou l'envie, le temps, etc., de préparer une intervention. Mais donc je représente, si vous voulez, la NAC, d'où mon discours défendant les archéologues de collectivité, évidemment.
Parfait, parfait. Sorcelle, c'est que vous soyez là. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, juste peut-être une question, une clarification. Archéologue, anthropologue. Alors,
je suis archéo-anthropologue, ce qui veut dire que je travaille sur des chantiers archéologiques, mais je suis anthropologue biologique, dans le sens où mon expertise est sur l'os humain et donc également sur la biologie des restes osseux. Études en laboratoire, âge, sexe, pathologie et tout ce qui va avec, études populationnelles, etc.
Parfait, merci. En tous les cas, merci à tous et à toutes de votre présence. Et Madame Louboutin va enchaîner par une petite prise vidéo, mais il faut qu'on monte là-haut, à la cafétéria. Voilà. On a pour 5-10 minutes.
5. Voilà.
Et après, c'est terminé. Donc, vous avez le programme pour tout le reste de l'année. Et puis bon week-end à vous.